Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage avec la compagnie de train autrichienne OBB et son fabuleux Nightjet, le train de nuit de mes rêves. Imaginez vous quitter Paris ou Strasbourg à la nuit tombée et vous vous réveillez doucement en Autriche après un gros dodo sur les rails. En quelques heures, vous voilà dans le centre-ville vibrant de Vienne, prêt à explorer ses cafés charmants et ses rues historiques. Pendant ce green trip en train, vous pouvez aussi faire escale à Salzbourg, la ville de Mozart, à Linz, avec sa scène artistique avant-gardiste, ou encore à St. Pölten, une petite ville géniale et hors des sentiers battus d'Autriche. Alors, si l'idée de voyager de manière confortable, écologique et sans tracas vous séduit, pensez direct au Nightjet d'OBB. Personnellement, j'ai déjà booké une escapade en famille parce que je rêve d'un chocolat viennois après une nuit cosy dans le train.
Il faut pas nager dans le delta de l'Okavango. Moi, évidemment, avec mes potes, on nage dedans. Et un jour, j'ai plongé, on m'avait fait un joli masque de plongée et on essayait d'aller dans les roseaux pour aller pêcher certains poissons au harpon. Notamment le poisson de tigre, c'est un poisson qui a tellement de dents qu'il n'arrive même pas à fermer la bouche. Mais bon, qui est très particulier, qui est très joli. Et en fait, en plongeant, en mettant le masque, je me suis rendu compte qu'il y avait un croco qui était allongé au fond de l'eau, juste en dessous de notre bateau. À ce moment-là, tu te dis, ah oui, parce que le premier réflexe que tu as, surtout quand tu es dans l'eau, vu que c'est pas ton élément principal, c'est que tu paniques. Tu vas remonter tout de suite dans le bateau. Et alors là, si tu fais ça, bah, tu finis en casse-croûte.
Bonjour, c'est Marie et vous écoutez Beau Voyage. De l'ascension du Merapi au Népal, au tour du monde en famille, du road trip au Chili au bivouac en âne dans les Pyrénées, vous entendrez des hommes et des femmes qui partagent leurs aventures hors des sentiers battus. Des aventuriers ordinaires qui vous racontent leurs aventures extraordinaires. À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous.
Alexis a grandi entre la France et l'Afrique grâce au travail de son père, grand photographe de brousse. Une fois ses études terminées en France, il a du mal avec le bitume et la pollution et décide de retourner sur ses terres. Son objectif, s'y installer pour de bon et réaliser son rêve, être guide au Botswana. Alexis est aujourd'hui le seul guide francophone du pays le plus sauvage d'Afrique et organise des safaris sous tente en pleine brousse au milieu des Big Five. Dans cet épisode complètement dingue, il nous raconte à quoi ressemble une école de guide de brousse, sa première attaque de hyènes, les dangers des piqûres de scorpions et l'agressivité des ratels, mais aussi ses plus belles rencontres avec les lions et ses plongeons avec les crocodiles dans l'Okavango. Il nous a parlé de cette vie en pleine nature et des éléphants qui passent au fond de son jardin. On a adoré et on aurait pu l'écouter pendant des heures. Bonjour Alexis.
Salut Marie.
Bon, qui es-tu déjà pour ceux qui ne te connaissent pas encore ?
Je suis Alexis Fourneau et je suis le seul guide français diplômé d'État du Botswana à l'heure actuelle.
Magnifique. Comment tu es arrivé là ? Comment tu as développé ce lien avec l'Afrique ?
Bah écoute, j'ai eu la grande chance dès le plus jeune âge de voyager énormément avec mes parents. Pour te faire simple, mon père a une agence de voyage qui est spécialisée dans la photographie animalière. Donc dès le plus jeune âge, du coup, je partais avec mon père et ma mère évidemment en Afrique. Déjà de un pour explorer de nouveaux endroits que mon père pourrait offrir. Aussi accueillir les différents groupes de clients de mon père qui pourraient arriver sur place. Et voilà, donc c'était un mélange de deux entre un peu d'accompagnement du côté de mon père quand il commençait à l'époque, parce qu'évidemment, plus sa boîte à grimper, moins il accompagnait parce qu'il y a de plus en plus d'accompagnateurs. Mais nous, ça ne nous empêchait pas de continuer à faire nos grands road trips à travers l'Afrique. Donc on avait nos véhicules avec nos tentes sur le toit et tout l'équipement et on faisait des grands road trips à travers toute l'Afrique australe.
Donc c'était toute l'Afrique, c'était déjà l'Afrique ou il allait dans le monde entier ton père ?
Alors mon père allait, et ma mère avec d'ailleurs, allait dans le monde entier. Donc j'ai fait beaucoup de pays dans le monde entier avec mes parents, mais c'était quand même essentiellement l'Afrique qui était notre deuxième maison et qui était notre endroit, notre terrain de jeu. Et donc je passais énormément de temps en Afrique. Donc c'était essentiellement sur les périodes scolaires, bon des fois ça allait passer un peu avant, un peu après. Bon, et à côté de ça, moi quand je rentrais d'Afrique et je retournais à l'école, j'avais ce contraste très différent de passer autant de temps en pleine brousse, mieux de rien, des fois même avec des tribus locales. Et comme quand j'étais gamin, je gardais les chèvres avec mes copains Maasai, et puis la semaine d'après j'étais de retour à l'école et j'avais un contraste qui était assez violent. Et donc ce qui fait que j'ai fait de longues études, parce que j'ai redoublé deux fois. Et, ça a profondé. Exactement. Et je me suis efforcé d'essayer de suivre le cursus scolaire, comment on appelle ça ?
Classique.
Classique, exactement, merci. Et arrivé en fait en seconde générale, je me suis rendu compte que j'avais rien à faire là. Et donc, j'ai essayé d'arrêter de partir en Afrique avec mes parents et de me construire un bagage de diplôme, en quelque sorte. Donc, je suis parti dans le paysagisme. Et donc, j'ai fait 4 ans d'études en alternance dans le paysagisme. J'ai eu mes 2 diplômes et ensuite, j'ai travaillé 3 ans de plus toujours dans le paysagisme. Mais après, j'étais rentré dans le paysagisme d'intérieur où je faisais des décors de studio pour des films ou des défilés de mode, ou, etc., ou événements. Et puis un jour, en fait, je me suis rendu compte que l'Afrique me manquait énormément parce qu'en tout, ça faisait 7 ans que j'étais partout en Afrique. Et donc, j'ai décidé de repartir faire un tour, ce qui me manquait le plus. L'Afrique, ça a toujours été en moi, depuis que je suis tout petit. J'ai toujours été fasciné par les guides de safari, par leur savoir-faire dans leur environnement. Et bon, je me suis toujours dit que c'est quelque chose que je voulais faire, qui me plaisait, parce que j'avais grandi dedans, mais je pensais que c'était un rêve inaccessible. Et je me suis dit, bah, qui ne tente rien à rien. Donc là, je suis allé voir mes parents de nouveau, je leur ai dit, bon... je vais partir pour un petit moment, je retourne au Botswana, là où j'ai passé plus de temps dans mon enfance.
Ah oui, parce que ça, tu ne nous as pas dit, mais tu es allé dans tous les pays d'Afrique australe ou spécialement le Botswana quand tu étais petit ?
Tous les pays, non. Alors le Botswana, c'est le pays qu'on a le plus visité, on a fait le plus de road trips, le plus d'aventures, mais j'ai fait pas toute l'Afrique australe, mais quasiment, un peu de l'Afrique de l'Est, un peu de l'Afrique du Nord.
Mais donc dans ta tête, quand tu es reparti, c'était sûr que c'était le Botswana ?
Ouais, pourquoi ? Parce que je savais que c'était le dernier endroit le plus sauvage d'Afrique, avec les plus grands espaces protégés. Faut savoir que le Botswana, c'est aussi grand que la France. Quand je dis la France, je parle que de l'Hexagone. Et il n'y a que 2 millions d'habitants, 80% du territoire est sauvage, 60% de l'entièreté du territoire est protégé. Donc déjà, ça a un impact monstrueux dans ma décision par rapport aux autres pays. Et surtout, je savais aussi que bien qu'il y ait des humains, qu'il n'y ait que 2 millions d'habitants, certes, la capitale qui est tout en bas du pays au sud, qui est posée sur l'Afrique du Sud, est développée et un peu peuplée, mais le reste du pays vit essentiellement, si je puis dire entre guillemets, de manière un peu traditionnelle. Et du coup, c'est ça que j'aimais, c'est le côté très rustique, le côté où il faut savoir se débrouiller de tout. Et oui, c'est le côté d'être un couteau suisse sur pattes qui me plaisait beaucoup. Ouais.
Okay.
Donc, je voulais ne pas avoir électricité tous les jours, ne pas avoir l'eau courante, apprendre à vivre comme ça, que j'avais connu évidemment dans mon enfance, mais ouais, ça faisait partie du côté vraiment aventure que je cherchais, que je savais que j'allais trouver au Botswana. Ouais.
Donc tu t'envoles pour le Botswana ?
Donc je m'envole pour le Botswana. J'arrive sur place. J'avais un petit plan parce que j'avais quand même anticipé un peu mon départ. Déjà, j'ai mis un peu de sous de côté. Donc quand j'étais rentré du Kenya, j'ai trouvé un boulot. J'ai bossé pendant 6 mois en France pour pouvoir déjà me racheter un billet d'avion et d'avoir un petit peu de sous de côté. Et au bout de 6 mois, je suis parti au Botswana. En ayant parlé à plusieurs personnes que j'ai rencontrées de nouveau sur place, et ce sont devenus mes premiers partenaires avec qui j'ai fait donc mes premiers safaris. Donc c'est là où j'ai voulu du coup lancer mes safaris francophones pour continuer à moi me former, à me remettre dans le bain de l'Afrique, etc. Et ensuite, je suis allé dans une école privée, une école de formation de guide de safari au Botswana, pour pouvoir être formé. Et sachant qu'à la base, je ne suis pas un citoyen du Botswana, c'est très compliqué, voire impossible, de devenir guide local. Et moi qui ne voulais rien lâcher, je me suis quand même battu. Et donc, je suis quand même allé faire ma formation, évidemment. J'ai réussi
en quelle
à
langue
avoir tous mes diplômes en anglais. En
tous anglais. Les guides, ils sont formés en anglais dans cette école ?
Oui, oui. De toute façon, les deux langues officielles du Botswana sont l'anglais et le Setswana.
Donc, tu es sorti avec ton papier,
ouais. Ton
permis de conduire. Comment tu commences alors ? Parce que là, t'es au Botswana, qu'est-ce que tu fais ? Parce
alors,
que c'est pas en un claquement de doigts qu'on monte une agence et qu'on fait venir des gens, etc.
Alors, comme je t'ai dit, en fait, j'avais déjà commencé avec un partenaire local qui, lui, avait une société. Et comme je dis, moi, je fais de l'expédition, c'est-à-dire que je fais des camps itinérants. Donc, moi, j'ai mon véhicule de safari avec mes clients dedans. Et à côté de ça, j'ai mon équipe qui est autonome avec un chef cuisinier, un chauffeur de camion et des gars pour monter le camp. Ils partent au-devant de moi. Ils savent très bien quels sont nos itinéraires et on a des emplacements pour camper qui sont très précis.
D'accord.
Donc, c'est des emplacements qui sont faits pour les professionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune infrastructure humaine. On est en plein milieu de la brousse. Il n'y a absolument rien autour de nous, à part un endroit qui est désigné et on sait qu'on a le droit de camper là et c'est réservé aux pros. Donc, eux, ils partent en amont, ils montent le camp, ils font à manger, etc. Et moi, avec mes clients, je fais des safaris toute la journée et j'arrive le soir au camp et le feu de camp est là, tout est monté, ma cuisinière arrive avec ses bons plats.
C'est kiff.
Et voilà, et tous les 2 jours, je dirais mon itinéraire principal, tous les 2 jours, le camp est démonté par mon équipe et on le redéplace et on le remonte.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'on bouge. Donc, j'ai commencé avec mon premier partenaire à l'époque et puis au fil des années, en évoluant, j'ai changé de partenaire, etc. Jusqu'au jour où j'ai réussi à monter ma boîte, c'était une belle chose. J'étais très fier, mais c'était juste avant le Covid, figure-toi.
Une bonne idée.
Une super idée, mais bon, qui pouvait savoir. Et c'était top parce que la première année, on a super bien marché. Donc, on a ouvert mars 2019.
Comment tu trouvais des clients ?
Ah, avec les agences de voyage.
Ah, d'accord.
Je travaille avec des agences de voyage, donc plusieurs agences de voyage. Je fais ce qu'on appelle du regroupé. Donc, je vais voir toutes ces agences de voyage. Je leur propose mes circuits, s'ils sont intéressés, oui ou non. S'ils sont intéressés, tant mieux. Et donc, je leur explique ce qu'il y a compris dans mes voyages, donc l'itinéraire, les services inclus, etc. Et en fait, voilà, les agences de voyage sont mes premiers clients.
Mais avant que tu nous racontes ces aventures, moi j'ai trop envie que tu nous racontes tout, mais les 100 jours où tu n'es pas en safari, tu vis comment, toi ?
Je vis comment ?
Tu vis où ? Non, mais c'est comment la vie au Botswana ?
Pour te faire simple, moi j'habite à Mon. Mon, c'est la capitale du tourisme au Botswana, pour te faire simple. Bon, Mon, c'est absolument pas développé. Hein. C'est la troisième plus grosse ville du pays. On n'a que deux routes goudronnées. Voilà. On a installé le premier feu rouge en 2010. Et quand on a installé le premier feu rouge, pendant 6 mois, on a eu des gars qui distribuaient des flyers aux conducteurs pour qu'ils comprennent comment fonctionne un feu rouge. Donc, tu vois, chez moi, j'ai pas l'eau courante. J'ai une pompe qui va pomper de l'eau dans la rivière qui passe au bout de mon jardin. C'est comme ça que j'ai de l'eau dans ma douche et dans mon évier. Donc, c'est très, très rustique.
Et Mon, tu t'es fait une bande de potes ?
Alors, oui, bien sûr. Alors, quand je suis arrivé à Mon, au début, si tu veux, connaissant personne, je me suis rapproché des autres expats, comme moi. Mais je me suis très vite rendu compte que les expats qui arrivaient à Mon tiennent en général 2, peut-être 3 ans maximum, qui ne sont pas là pour faire leur vie. Ils viennent juste profiter, ils sont plus ou moins en vacances, ou comme ils disent en australien, working holidays, tu vois, et qui ont beaucoup de mal à accepter la différence de culture et de mode de vie. Et moi, de par l'histoire de ma famille, parce que ça ne se voit pas comme ça, mais... Si tu me fais une prise de sang, tu verras que j'ai pas beaucoup de français. Enfin, j'en ai, mais je viens un peu de partout. Et je trouve ça vraiment dommage de pas accepter qu'on vit dans un autre pays, qu'une autre culture, de pas la comprendre, de pas l'accepter, et que ce soit à nous de s'adapter à cette culture et non pas l'inverse. Et je sais qu'il y a beaucoup d'expats qui essayent d'imposer leur façon de faire, pensant que ça va mieux marcher, et en fait, non. Et moi, je trouve ça magnifique de comprendre notre culture, de s'adapter, et après d'être, comment t'appelles ça, accepté dans cette communauté, ce qui est pas facile au début. Donc, j'étais en première année et demie avec les expats. Et très rapidement, en fait, j'ai rencontré les gens locaux. Et j'étais surtout avec les blancs locaux, donc des Botswanais blancs locaux. Puis, moi, on fait rencontrer énormément de personnes, énormément de contacts, c'était super. Mais je me suis aussi rendu compte que c'était un groupe, comment dire, assez fermé. Et moi, ça ne me plaisait pas trop. Trop de compétition. Et moi, ce n'est pas ce que je venais chercher là-bas. Et en fait, maintenant, je suis dans ce que j'adore, je suis dans un groupe très mix. C'est-à-dire que j'ai des locaux blancs, des locaux noirs avec moi, il n'y a aucune différence, et on est vraiment en fait une vraie communauté. Et maintenant, je suis plus proche, si tu veux, de la communauté, soit 100% noire locale, ou alors mix, mais pas mix de la haute, tu vois. Et ça, c'est super, parce que c'est une vraie communauté, on s'entraide tous, tout le temps. Il y a moins de soucis, on s'entraide. Donc ça, c'est sympa, il n'y a personne qui se tire dans les pattes. Et c'est pour moi le plus important parce que je suis venu au Botswana en quelque sorte pour devenir botswanais, bien que je suis un petit français blanc et très fier d'être français. C'est ça que je voulais avoir. Je voulais avoir cette double culture, je voulais être complètement intégré. Ça ne m'intéressait pas de vouloir imposer ma façon de faire, ma façon de vivre. Non, au contraire, je voulais...
Tu voulais apprendre des autres.
Ouais, je voulais apprendre des autres. Ouais. Ouais.
Et alors, pourquoi nous, on va au Botswana, nous les touristes ? Pourquoi aller au Botswana et pas dans les autres pays d'Afrique australe ? C'est quoi la différence ?
Alors, je ne dirais pas qu'il ne faut pas aller dans les autres pays.
Non,
parce que c'est
mais pourquoi,
bien
pourquoi le Botswana ?
Pourquoi le Botswana ? Parce que c'est l'un des derniers pays, l'un des vrais derniers pays sauvages d'Afrique. C'est-à-dire, encore une fois, le pays est très sauvage, 80% du pays est sauvage, 60% du territoire est protégé. On peut trouver des animaux qui n'ont jamais vu l'humain. Et donc, pour le coup, c'est une vraie expérience où on est complètement déconnecté du monde moderne. Dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, tu n'as pas de réseau téléphonique, tu peux passer toute une journée en pleine brousse sans croiser un véhicule. Et donc, étant loin de toute zone humaine, il n'y a aucune pollution, même lumineuse. Et donc, tu es vraiment complètement dans l'immersion du monde sauvage. Et on dit qu'évidemment, c'est les endroits, les safaris les plus beaux. Et c'est vrai, parce qu'on a vraiment, déjà, on a une grande variété d'animaux. On a beaucoup d'espace, on a beaucoup d'animaux. On a surtout le delta de l'Okavango, qui pendant très longtemps a été le seul delta au monde à se jeter dans un désert et non pas dans la mer. Maintenant, je crois qu'il y en a un ou deux maintenant qui, malheureusement, dû au manque d'eau, se jettent dans les terres aussi, mais à la base, se jetaient dans les mers. Et donc, c'est un site de l'UNESCO, c'est un site unique au monde. Donc, le delta de l'Okavango prend sa source dans les collines d'Angola. Cette rivière Okavango descend jusqu'au Botswana et dans la hauteur du Botswana, il y a eu deux failles sismiques qui ont cassé l'île de la rivière et qui ont fait ce fameux delta. Et donc toute cette eau de pluie transparente, qui est une eau de paradis, part en infiltration souterraine sous le désert du Kalahari. Ce qui fait que c'est l'un des seuls déserts au monde qui est un désert avec du sable au sol, mais de la végétation. Et donc c'est un contraste assez incroyable avec d'un côté un désert extrêmement sec mais avec de la végétation et de l'autre côté ce delta de l'Okavango extrêmement vert avec des roseaux, des papyrus, tout un tas d'animaux aquatiques. Donc tu as un contraste très intéressant. Et oui, quand on y est, de par le paysage, les couleurs, le comportement animalier et aussi de faire l'expérience d'être en expédition, on est plongé dans un monde qui est complètement différent des autres endroits. Disons que le Botswana n'est pas encore entré dans le tourisme de masse et j'espère n'y rentrera jamais. Et alors, il y a déjà des choses qui vont empêcher le tourisme de masse. Déjà, le pays, c'est un pays qui coûte cher. Le Botswana, comme la Zambie par exemple, sont deux destinations africaines qui coûtent très cher, qui sont parmi les plus chères pour faire des safaris. Pourquoi ? Parce que on produit quasiment rien au Botswana. Donc, notre première ressource économique, c'est le diamant. Pendant très longtemps, on a été premier producteur et exportateur mondial de diamants. J'ai vu que récemment, la Russie nous est passée devant cette année. En deuxième, le tourisme. En troisième, la viande de bœuf, qui est une viande excellente. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, en 2014, la France était premier importateur de viande de bœuf du Botswana. Et personne ne savait. Une grande partie partait à La Réunion directement. Et le reste qui arrivait sur l'Hexagone partait dans les restaurants haut de gamme. Et donc voilà, en dehors de ça, il y a un petit peu d'agriculture où ils essaient de faire pousser un peu de sorgho. Mais c'est tout. Vu qu'en fait, on est dans un désert, donc on a un sol de sable, on a un sol qui est très peu fertile. Donc compliqué en fait de produire de l'agriculture en masse et d'exporter, etc. Donc du coup, on importe énormément de choses, donc tout coûte cher. Je dirais qu'en ce moment, on est quasiment dans les mêmes prix. Mais si on remonte avant le Covid, avant qu'il y ait toute cette inflation, à l'époque, j'étais déjà à une fois et demie à deux fois plus cher qu'en France quand j'allais dans les supermarchés.
Ah ouais,
enfin, dans le supermarché, c'est pas comme s'il y en avait beaucoup. Donc voilà, on faisait des économies sur les carburants, parce que le carburant, c'était nettement moins cher qu'en Europe. La viande rouge, ça c'est clair et net, et c'est tout. Tout le reste coûte plus cher.
Ah ouais.
Donc voilà pourquoi déjà de base, pour venir au Botswana, ça coûte cher.
Ça coûte combien de partir avec toi ?
À peu près une moyenne, c'est-à-dire que si on prend seulement l'expédition avec moi et les billets d'avion, on est entre 5 500, autour de 5 500. Disons entre 5 000 et 6 000 euros par personne. Ouais.
Pour deux semaines ?
Pour 10 jours. Pour 8 nuits sur place.
Okay.
Pour une nuit sur place. Après, tu as très souvent des extensions qui sont prises, comme soit faire une nuit ou deux de plus après le séjour ou avant le séjour dans un lodge au Botswana, faire le survol du delta de l'Okavango que je recommande à tout le monde parce que, je peux vous mentir, les reportages à la télé nous font un énorme marketing et gratuit, tant mieux, merci à eux. Et on nous montre toujours le delta vu du ciel. Et quand on est en safari, on ne le voit pas comme ça. Donc, je suggère à tout le monde parce que c'est absolument fabuleux à voir. Et donc, ça fait partie d'extensions, et très souvent aussi d'extensions aux chutes Victoria, qui sont au Zimbabwe, juste à côté, ou des fois en Afrique du Sud pour aller faire un week-end à Cape Town, etc. Donc, les prix montent assez facilement.
C'est quand même luxe pour un voyage.
C'est
luxe. Ou en tout cas, les gens qui cherchent du confort et tout, ils le trouvent quand ils partent avec toi ?
Oui. Alors après, encore une fois, tu as plusieurs niveaux de prestations. Tu as moins cher que ça, où tu dors vraiment en petite tente, je dirais, quechua, même le sol, tu as ta conserve au coin du feu. Mais c'est très, très rustique, surtout dans les conditions du Botswana. Disons que c'est essentiellement réservé à une certaine clientèle jusqu'à un certain âge. Après, c'est trop rustique. Moi, tu vois, j'ai essayé de faire quelque chose entre le camping rustique et le lodge de luxe et confort.
Okay.
Donc voilà pourquoi j'ai des grandes tentes qui font, si je ne dis pas de bêtises, elles font 3 mètres sur 6. Pas mal de mètres carrés. Il y a la salle de bain qui est accrochée derrière. Ensuite, donc c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, les clients peuvent aller dans la salle de bain. Il y a un toilette sec et il y a une douche où on fait chauffer l'eau avec le feu de bois. Ils ont un petit lavabo, un miroir,
d'accord,
etc.
Okay.
Dans la tente, tu as des vrais semis avec des vrais matelas, une vraie literie. Donc non, c'est vraiment confort.
Ouais.
Toutes les boissons sont comprises. J'ai ma chef cuisinière qui est une maman exceptionnelle qui nous fait des bons petits plats tout le temps. Donc oui, il y a vraiment, tu vois, dans les voitures, là, en général, on met 9 personnes parce que tu as 3 rangées de 3 sièges.
Okay.
Moi, j'en mets jamais plus que 6. Je veux
toujours
que mon siège central soit libre pour mettre du matériel, pour que les gens soient à l'aise, le confort. Donc voilà, j'ai essayé de trouver entre le côté très rustique et le campement et le côté confort du lodge. Donc voilà
parfait,
pourquoi je suis exactement entre les deux. Voilà pourquoi tu arrives dans ces prix-là. Parce que oui, quand tu te dis 5 500 euros par personne pour passer 8 nuits dans une tente, c'est très cher. Évidemment, avec le même montant, au Kenya, on peut faire du lodge et même rester plus longtemps. Mais après, ça dépend de l'expérience qu'on cherche. Pendant très longtemps, le Botswana est une destination de connaisseurs. C'était très rare d'avoir des clients qui faisaient leur premier safari de leur vie au Botswana. Ça n'existait pas. Ça commence à exister depuis, je dirais, 2015-2016, depuis qu'il y a beaucoup de reportages sur le delta de l'Okavango. Maintenant, ça m'arrive d'avoir des clients où c'est leur premier safari. À l'époque, ce n'était pas le cas. D'accord. Les gens avaient forcément fait Kenya, puis Tanzanie, puis Afrique du Sud, puis souvent même Namibie, puis on disait « Vous voulez la vraie expérience sauvage ?» Botswana. Et donc, les gens venaient. Et c'est comme ça que d'ailleurs, moi aussi, parce que quand j'étais gamin, je me souviens quand mon père essayait de développer le Botswana, à l'époque, il n'y avait que des vrais aventuriers et des vrais intéressés connaisseurs qui venaient. La plupart des gens disaient « Bo quoi quoi ?» Et donc, voilà, c'était... Non, même à l'heure actuelle, le Botswana... Et c'est ça qui m'amuse, c'est qu'il y a plus de gens qui ont entendu parler du delta de l'Okavango que du Botswana. C'est marrant, ouais. C'est comme les gens qui ont entendu parler de la Tour Eiffel, mais quand j'ai entendu parler de la France, tu vois, c'est plus ou moins la même chose. Quoi.
C'est votre symbole, quoi.
C'est l'un de nos symboles, ouais, ouais.
Et alors, c'est quoi les animaux qu'on voit le plus au Botswana ?
Oula, tout.
Alors, tu vois tout ?
Ouais, on voit vraiment tout. L'animal que tu vas voir le plus, ça va être l'éléphant. Alors, évidemment, tu vas voir un tas d'herbivores comme des antilopes, mais l'éléphant, pourquoi je te dis ça ? C'est que sur le continent africain, il reste grosso modo 330 à 350 000 éléphants, mm-hmm. ce qui est rien, sachant que il y a 124 ans maintenant, il y avait encore 2 millions d'éléphants en Afrique.
On est passé de 2 millions à 300 000.
On a même fait pire, parce qu'en 1800, il y avait 5 millions d'éléphants d'Afrique. 1900, il en restait 2 millions, et là, 124 ans après, il n'en reste plus que 350 000.
Pourquoi ?
Parce qu'on a joué de la gâchette, malheureusement. Et on a essentiellement chassé les éléphants à grande défense. Ce qui fait que le gène grande défense commence à disparaître. Voilà pourquoi on ne trouve plus vraiment d'éléphants à très longue défense, ouais. qu'on appelle les tuskers, qui ont les défenses qui vont jusqu'au sol. La plupart, les défenses, quand elles sortent au niveau de la bouche, elles vont faire, je dirais, entre 70 cm et 1 mètre grand max.
D'accord.
Voilà. Et donc voilà pourquoi on n'a plus beaucoup d'éléphants. Et il s'avère que Botswana étant l'un des derniers pays vraiment sauvages d'Afrique australe, et étant au milieu de la cuvette que fait l'Afrique australe, si tu veux, ça fait une tête de zèbre. Donc si tu prends que la partie de la mâchoire du zèbre ou du cheval, ouais. ça fait comme un grand bol. Et nous, on est en plein milieu et tous les autres pays sont bien développés. Et nous, les humains, on vit essentiellement sur les pays côtiers. On n'a que fait de rentrer dans les terres. Et donc, en rentrant dans les terres, on a créé un étau. Et c'est là qu'en fait, on a récupéré beaucoup d'animaux et surtout beaucoup d'éléphants. Pour te faire simple, notre écosystème au Botswana est fait pour accueillir 60 à 70 000 éléphants au grand maximum. Et pour une balance équitable, pour l'environnement, il faudrait qu'il y ait à peu près la moitié de ça, c'est-à-dire 30-35 000 éléphants. Comme ça, il y a de l'habitat pour tout le monde, il y a de la nourriture pour tout le monde, etc. Et c'est bon au niveau de l'environnement. À l'heure actuelle, au Botswana, on a 150 000 éléphants. C'est-à-dire qu'on a plus du double de la capacité maximale de ce que notre écosystème peut accueillir. Et il est là notre souci, c'est que ça a un impact monstrueux sur notre environnement.
Pourquoi ils font quoi, les éléphants ?
Ben, ils cassent tout. Donc, ce sont les jardiniers de la brousse. Ils sont essentiels à l'environnement, je dirais même à l'écosystème, non pas du Botswana, mais du continent africain. Mais sauf que maintenant, ils sont tous au même endroit, quasiment. T'imagines qu'on a la moitié de la population d'Afrique dans un seul même pays. Tout le reste est étalé sur le reste des pays, avec une grande majorité Afrique du Sud, Kenya, Tanzanie, et aussi Zimbabwe. Zimbabwe, c'est le deuxième pays le plus peuplé en éléphants. Tu vois, Zimbabwe et Botswana ont rempli les trois quarts de la population d'éléphants d'Afrique. Ils cassent beaucoup d'arbres, donc d'habitats, de nourriture, et comme je dis, ils sont essentiels, mais ils sont en train de détruire l'environnement du delta de l'Okavango. Ce qui fait que notre gouvernement a décidé durant le Covid en 2020 de réouvrir la chasse sur l'éléphant. C'est le seul animal sauvage qu'on aura de chasser au Botswana à l'heure actuelle. Alors, parce que c'est un animal qui est vraiment considéré comme sauvage. Si vous êtes dans une réserve de chasse privée, là, vous pouvez tuer ce que vous voulez parce que les animaux appartiennent à ces gens-là. Oui, ça, je ne suis pas forcément d'accord
Chacun
avec ça.
Chacun son point de vue.
Mais voilà, c'est comme ça. Par contre, en revanche, le seul animal qui est vraiment sauvage qu'on a le droit de tuer, c'est l'éléphant. Pensant que ça pourrait réguler quelque chose. Tu vois, par exemple, il y a une autorisation de tuer 400 éléphants par an. Et en fait, même si les 400 éléphants étaient tués par an, ça ne régule pas grand-chose, parce qu'on a bien plus de 400 naissances par an, on a bien plus de 400 jeunes qui survivent et qui grandissent, donc l'impact est presque nul. Ce qui serait vraiment très bien, c'est de pouvoir relocaliser ces éléphants à travers le continent africain. Pourquoi ? Parce que quand tu n'as pas de faune sauvage, c'est très compliqué d'avoir de la flore. Donc, tu as besoin des animaux qui entretiennent la flore. Et si tu as de la flore, eh ben, ça refait venir l'eau en surface. Et donc, tu as plein de pays, notamment l'Angola, qui est la source du delta de l'Okavango, qui a chassé énormément de sa faune sauvage parce qu'ils avaient faim, les gens, durant la guerre. Et maintenant, ils ont besoin de repeupler tous ces endroits naturels pour que les animaux viennent, entretiennent la flore se développe et la flore fasse revenir l'eau en surface dans les rivières. Et donc, le continent africain en a entièrement besoin. Sauf que de déplacer un éléphant, ça coûte extrêmement cher. De tuer un éléphant, ça rapporte de l'argent.
Ouais.
Donc, tu comprends bien comment les choses ont été décidées. Quoi.
Ouais. Et toi, tu as eu des mauvaises aventures? Ils sont dangereux, les éléphants, ou pas?
Alors, les éléphants sont dangereux et puissants, mais ils ne sont pas agressifs. C'est un animal qui est extrêmement intelligent, qui communique énormément avec toi, donc en langage corporel. Il te dit quand il est content, quand il ne l'est pas. Après, évidemment, ça dépend aussi des régions dans lesquelles tu es en Afrique. Tu as des régions avec des éléphants qui ont un conflit avec l'humain qui est bien plus important que d'autres. Tu vois, moi, je sais que j'ai des amis qui sont en Afrique du Sud. Quand ils voient un éléphant en voiture, ils font demi-tour et s'en vont tout de suite.
Pourquoi? Les éléphants n'aiment pas les humains?
Parce que les éléphants peuvent être agressifs et que les guides ne sont pas forcément tous bien formés. Il y a beaucoup, beaucoup de guides en Afrique du Sud. Donc, tu sais, tout le monde n'a pas le même niveau. Tout le monde n'a pas le même niveau d'expérience aussi. Donc, c'est compréhensible que certains, des fois, peuvent être impressionnés par certains comportements animaliers. Alors qu'au Botswana, alors oui, je me suis déjà fait charger. Ça arrive à chaque safari.
Tu te fais charger, parce que toi, ça t'arrive comme moi, je vais prendre le métro. Mais c'est-à-dire que tu es dans ta voiture avec tes touristes. Il y a un éléphant en face de toi. Et lui, il a envie de te charger.
Alors oui, ça arrive. Alors, on peut se faire charger très souvent. Soit c'est les femelles qui veulent protéger les petits, soit c'est des mâles qui sont en période de rute.
Et ça, comment on les repère?
Alors, on les repère plusieurs façons. Déjà, de un, ils sentent très fort de très loin.
Ah oui.
Et si on regarde entre les pattes, au niveau de la poche ou sur la traque, le pénis, ça suinte en permanence une muqueuse qui sent très très fort. Et donc, en fait, ça dépose des hormones au sol. Et c'est comme ça que, en fait, les éléphants font aussi pour se retrouver. C'est-à-dire quand ils marchent, qui sont soit pour les femelles qui sont dans leur chaleur ou soit les mâles en période de rute, les deux sécrètent cette muqueuse et quand ils marchent, ils font traîner la trompe au sol, rebiquer, et ils respirent. Et s'ils relèvent les hormones d'un mâle ou d'une femelle qui sont prêts à s'accoupler, ils font en sorte de se rejoindre. Et d'ailleurs, c'est parmi les seuls moments où tu vois un gros mâle adulte être dans des familles. Parce que tu ne verras jamais un mâle adulte au sein d'une famille, avec des femelles et des petits.
Donc là, si j'en vois un qui suinte et tout, je pars.
Alors, encore une fois, et ça c'est marrant parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui m'envoient des vidéos de ce qui se passe en Afrique du Sud, dans le parc Kruger, où des voitures sont chassées, etc. Et qu'il y a du coup collision entre l'animal, et très souvent l'éléphant et la voiture, c'est très souvent des gens qui font des marches arrière. Très souvent des gens qui fuient l'animal. Et encore une fois, l'éléphant, c'est le langage corporel. Tu fuis, donc tu montres ton infériorité, tu montres une certaine soumission, et donc tu montres qu'il est dominant, et donc du coup il en profite, il vient.
Donc tu fais quoi alors s'il te charge?
Alors déjà, il faut comprendre ce qu'il fait. Il faut voir s'il charge pour de vrai ou pas. Donc tu vas avoir du langage corporel. Donc il peut secouer la tête, claquer les oreilles, c'est un signe de mécontentement. Il va mettre la tête très haute et ouvrir les oreilles en grand pour essayer de se faire plus gros, essayer d'impressionner. Tout ça sont des langages de prévention à la base. Très souvent, j'ai des clients qui me disent « Oh là là, il bat des oreilles, il va charger ». Non, absolument pas. Quand il bat les oreilles, il se ventile. Donc il est très relax quand il bat ses oreilles. Par contre, quand un éléphant plaque les oreilles contre le corps, baisse la tête, ronde la trompe entre les jambes, c'est position bélier, là, il ne faut pas rester.
Et donc, tu fais quoi? Là, tu pars.
Là, il vaut mieux partir. Mais encore une fois, partir tout de suite quand il y a ce genre de situation, c'est montrer une certaine soumission. Et donc, ça peut pousser l'animal à aller jusqu'au bout. Donc, on peut commencer à partir. Si l'animal arrive trop proche, hop, mettre un coup de frein, s'arrêter. Montrer qu'on part gentiment, on respecte sa zone de confort, parce qu'on est donc, du coup, dans sa zone de danger, mais ne pas fuir d'un coup. Pour éviter justement le drame. Et encore une fois, comme je dis, ça dépend de ce que l'éléphant a communiqué. Si jamais j'ai un éléphant qui me fonce dessus, la tête baissée et la queue entre les jambes, la trompe, pardon, entre les jambes, non pas la queue, je démarre, je m'en vais, parce que je sais qu'il y a de grandes chances qu'il soit en rute et du coup qu'il ne s'arrêtera pas. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment un échange de langage. Très souvent, les gros papas qui impressionnent tout le monde parce qu'ils sont énormes, 5 tonnes, 5 tonnes 5, tout au Botswana, on a des monstres avec des têtes gigantesques. Mais en fait, ils sont très dociles. Donc, ils peuvent venir très proches. Ils peuvent aller secouer la tête pour claquer les oreilles, pour essayer de faire peur. Mais ce que je dis souvent, c'est que les éléphants, c'est des chiots qui font 5 tonnes. Quoi. Et ils sont mignons comme tout. Et comme je dis, ils sont dangereux, mais ils ne sont pas agressifs.
Okay.
Et comme je dis très souvent, il faut savoir faire la différence. Tu vois, la plupart des gens qui viennent en safari, c'est normal avec notre éducation européenne. Les gens ont peur des prédateurs. Ils pensent tout de suite que le danger, ça va être le lion, le léopard, le guépard, etc. Non, non, non. Les plus gros problèmes, les plus gros dangers qu'on a en Afrique sont essentiellement les herbivores, les gros herbivores. Tu vois, l'animal qui tue le plus en Afrique, c'est ni un herbivore, ni un carnivore, ou presque, c'est le moustique.
Ouais.
Ensuite, tu as l'hippopotame et ensuite tu as le buffle. Donc tu vois, c'est que des herbivores. Un peu après, évidemment, tu as les crocos et bien loin derrière, tu as les lions et les léopards. Qui sont évidemment dangereux, mais il faut toujours savoir faire la différence entre dangereux et agressif. C'est comme un couteau. C'est dangereux, mais tant qu'il ne touche pas, il n'y a pas de coupé. C'est plus ou moins la même chose. Quoi.
Tu nous racontais que dans les camps, toutes les nuits, il y a des animaux qui viennent vous visiter.
Oui, absolument. Ouais.
Et donc, comment? Alors, donc, toi, par exemple, c'est ton tour au coin du feu. Il y a les lions qui arrivent. Tu fais quoi?
Les lions arrivent. Donc les lions arrivent, mon premier réflexe, ça va être de me lever gentiment, d'ailleurs, parce que très souvent, le soir autour du feu, j'ai l'arc de cercle de clients face à moi, et moi je suis de côté parce qu'on va reparler des choses de la journée, on va poser des questions, ou on me raconte, demande de raconter des histoires de Bruce. Donc pour mon premier réflexe, je vais me faire face aux lions, et je vais me rapprocher de mes clients. Parce que tout de suite, eux, ça les met en confiance, savoir que je suis avec eux et que je me mets devant eux.
D'accord.
Et je leur dirai en premier lieu, ne faites absolument rien, ne bougez pas, on observe le comportement de l'animal. 99% du temps, il passe, il nous regarde, mais il fait sa vie. Donc, pas besoin de faire quoi que ce soit. Après, si c'est un animal qui est un peu vieux, par exemple un lion qui est vieux ou blessé, quand je dis vieux, c'est qu'il a pu se faire piquer sa meute, du coup, il erre. Et du coup, il n'a pas le choix de chasser pour lui parce qu'il a faim. Mm-hmm. Donc, un lion qui a faim ou un lion qui est blessé ou autre, ça peut commencer à devenir un souci. Donc, en fonction de ça, je vais dire aux gens, alors, levez-vous, mais surtout ne courez pas. S'il s'approche, il charge, ne bougez pas. Si vous bougez, vous êtes mort. C'est aussi simple que ça.
Ok.
Donc, on va commencer à reculer gentiment. En général, je vais chercher le premier lieu de sécurité. Soit ça va être la grande tente restaurant où on mange tous, soit ça va être les tentes des clients, soit ça va être le véhicule, soit ça va être le camion de mes gars, de mon intendance. Donc, ça va dépendre de la situation. Mais la clé principale avec les lions, c'est de ne pas bouger. Tu vois, par exemple, ce qui s'est passé, ce qui était assez amusant pendant le reportage, c'était le premier soir en plus. Donc le premier soir, je récupère mes clients, je les emmène en pleine brousse, je remonte leur tente, ils s'installent, ils prennent leur douche. Quand ils ressortent, on se retrouve autour du feu pour l'apéro, avant que ma chef vienne annoncer son menu, qu'on passe à table. Et à l'apéro, je fais toujours un speech sur la sécurité et ensuite sur le développement de séjour. Et pendant mon speech de sécurité, j'entends un espèce de bruit sourd, très sourd. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est des bruits de sabots, de buffles dans le sable. Et pas un ou deux buffles, hein. Je parle de 300 ou 400 buffles qui arrivent tout droit vers le camp. Et par un bruit de communication des lions, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait les lions qui étaient en train de chasser les buffles et que les buffles avançaient directement vers le camp. Et donc, là, tu pourrais dire, oh mon Dieu, il y a les lions qui arrivent, etc. Mon problème, mon souci, c'était pas les lions, c'était les buffles. 400 bœufs de 600 kilos avec une cervelle de poule qui vous fonce tout droit à travers un camp.
Ouais, ils avancent comme ça.
Ah oui, ils avancent et on est piétinés. Donc ça pouvait être dangereux. Et encore une fois, je peux remercier le lion qui ne rugissait pas comme on peut l'imaginer, mais ils peuvent faire de la communication à courte distance, qui sont des tout petits feulements. Et c'est grâce à ça que j'ai reconnu qu'il y a bien les lions. Et effectivement, quand j'ai entendu, l'avantage, c'est que j'avais aussi mes gars avec moi qui étaient en train d'installer la table derrière moi. Tout de suite, on a pris nos torches, on a éclairé. Et en éclairant, on a arrêté les buffles qui ont été surpris de nos flashs. Et ils ont bifurqué, ils ont tourné plein est et ils nous ont contournés. Par grande chance, parce que sinon, on aurait pu s'en trouver tout scarpette, quoi.
Ils peuvent faire ça pendant la nuit, quand tu dors ?
Ils peuvent faire ça la nuit, quand tu dors. Mais bon, c'est rare à ces heures-ci. Parce que quand tu es installé, tu vois, nous, on venait de rentrer au camp.
Ouais.
Une fois que tu es installé au camp, que les gens sont là, on parle, on fait à manger, il y a les odeurs, il y a nos bruits, etc. Toute la brousse nous a vus, nous entend et nous sent. Donc, il y a vraiment peu de chances que quelque chose comme ça se passe en pleine nuit. Là, on venait d'arriver. Les buffles étaient en train de... C'était dans un endroit bien précis du Botswana. On était le long de la rivière Tchobé. Les buffles avaient passé toute la journée dans la rivière et sur les îles, voulaient rentrer dans les terres et il s'avère qu'ils sont passés devant une meute de lions. Et bon, les lions essayaient de se mettre la serviette autour du cou, préparer salé le poivre. Et par pur hasard, on était entre eux et les buffles, quoi. Donc voilà comment c'est passé, mais c'est très rare. Tu vois, hyènes et ratels, c'est toutes les nuits, pour te faire simple, toutes les nuits. Les prédateurs...
Et ça, tu les laisses dans le camp, il n'y a pas de...
Oui, je les laisse dans le camp parce qu'ils viennent par curiosité. Donc, ils aiment bien les bonnes odeurs de ma cuisinière. Donc, ils vont faire un tour dans la cuisine. Alors, évidemment, tout est rangé dans nos camions. Donc, ils viennent sentir les tables, les trois outils qu'on a laissés dehors, notre grille sur laquelle on fait la cuisine, parce que tout est cuisiné au feu de bois. Mm. On n'a pas de bouteille de gaz ni rien. Donc, ils viennent par curiosité. Parce que toutes les sociétés qui font des expéditions ne cachent pas tous forcément bien leur nourriture. Donc, il y en a évidemment qui se font voler leur nourriture, etc. Nous, on fait très attention. Donc, en général, les hyènes se baladent. Je les laisse faire. Et pour être très honnête avec toi, c'est aussi mon animal préféré. J'adore la hyène. Elle m'amuse beaucoup. Je trouve que c'est un animal très intelligent. La structure sociale est incroyable. Je trouve ça très mignon. C'est pâteau, c'est maladroit, mais en même temps, c'est intelligent. Et c'est surtout le seul animal que je ne vais pas chercher. C'est lui qui vient à moi. Parce que
d'accord.
C'est lui qui vient me voir toutes les nuits.
Ouais,
que
d'accord.
Dans la journée, c'est moi qui vais les chercher, qui les traque pour les trouver. Et c'est ça qui m'amuse. Après, quand j'ai le ratel qui vient dans les camps, ça c'est autre chose. Parce qu'il est très intelligent, très habile, très agile. Et il aime bien monter dans le camion. Et quand il arrive dans la vaisselle, il peut nous faire un sacré bordel. Et donc là, ça arrive avec tout le monde. Non seulement il fait de la casse, et en plus de ça, ça arrive avec tout le monde. Donc là, c'est un souci. Et puis quand un ratel a décidé de ne pas partir, c'est pas forcément facile.
comment tu le mets dehors, le ratel?
Alors, tu as plusieurs techniques. Tu avances vers lui en faisant du bruit, en claquant des mains. Ou alors, je peux prendre un bâton, faire du bruit, frapper sur le camion. Et en tout cas, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est quand il fait face, ça arrive des fois qu'il revienne vers toi en montrant les dents, en criant ou en grognant, etc., de ne pas faire des pas en marche arrière ou de ne pas reculer. Parce que là, du coup, il voit tout de suite que tu as eu peur. Donc, en fait, le ratel, même si ça peut faire très peur, alors que ce n'est pas très gros, il ne faut jamais reculer. Jamais reculer, d'accord, continuer. Et une fois qu'il est descendu en général du camion, la meilleure technique, c'est de se mettre à lui courir après. Et de continuer à ne pas courir en plein sprint à le rattraper. Parce que là, ça peut être un souci. Mais continuer à lui courir après en trottinant. Et en fait, il ne va que faire de s'éloigner, que faire de s'éloigner. Si vous arrêtez au bout de 10 mètres, il sait que c'est ce qu'on appelle en anglais du mock charge. Donc, comme font les animaux, comme font les éléphants. Où ils prétendent qu'ils vont charger le véhicule, mais en fait, ils ne le chargent pas. C'est juste pour faire peur. Donc là, il faut vraiment continuer. Donc ça, tu vois, ça, c'est les petits salauds qui m'empêchent de dormir la nuit. Mais en général, quand tu as d'autres animaux comme lion, léopard, tu les laisses pas se balader, ils ne feront rien du tout. Ils vont juste être curieux, regarder ce qui se passe. Tu vois, mes clients dorment dans leur tente, moi je dors sur le toit de ma voiture. Donc j'ai zéro protection, je mets mon matelas là-haut, je dors.
Tu n'as pas de tente ?
Non, je n'ai pas de tente, moi.
Tu mets ton matelas sur le toit ?
Ouais, ouais. Mon véhicule est complètement ouvert, si tu veux. Et on a recréé un toit, t'imagines un pick-up. Mm-hmm. On a découpé le toit et le pare-brise de la cabine avant. Et dans la benne à l'arrière, on a tous nos sièges avec un frigo et tout un tas d'outils, etc. Et par-dessus, à peu près 2 mètres de hauteur, on a un toit qu'on a reconstruit. Et sur ce toit-là, j'ai une galerie où je mets normalement les bagages de mes clients. Mais la nuit, bah, je jette mon matelas là-haut et mon duvet et je dors là-haut sur mon toit de voiture. Ce qui me permet, moi, de pouvoir m'endormir tous les soirs en regardant les étoiles. Et en plus, au bout de soi, il y a beaucoup d'étoiles filantes, donc c'est top. Mais aussi de pouvoir tout de suite savoir ce qui se passe dans le camp. Quand j'ai un animal sauvage qui vient... Quand j'ai un message sauvage qui vient, c'est pas trop un souci, mais quand j'en ai un qui vient et qui fait son petit bordel dans le camp, là au moins j'ai juste à me relever, ouvrir les yeux et je peux voir ce qui se passe. Que si je suis dans une tente, par exemple, le fait de secouer la tente, ouvrir mon zip, etc., je ne sais pas si j'ai l'une de ces bêtes, s'ils sont plusieurs ou pas, juste à côté de ma tente. Tu vois, ça peut être, j'ai pas forcément toujours visibilité. J'aime bien dormir là-haut.
Donc, quand même, pendant 2 semaines, quand tu parles avec tes clients, tu es en alerte 24-24.
Oh, en alerte, c'est un bien grand mot, disons.
Non, mais quand même, c'est toi qui es responsable vraiment pendant ces 10 jours.
Oui, il y a quelque chose qui se développe. Tu vois, j'utilise un terme qui est très utilisé en ce moment, c'est l'algorithme. Mm-hmm. Dans ta tête, ton algorithme se fait tout seul. Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai encore des amis français qui sont venus me voir, que je connais de très longue date, qui est venu cette année. Et mon amie Camille me dit, mais comment tu fais pour savoir tout ce qui se passe autour de toi? Parce qu'elle se rendait compte que le moindre petit bruit qu'il y avait, soit un bruit de branche ou un cri, ou elle me demandait toujours, j'avais toujours la réponse, je savais exactement ce que j'avais autour de moi. Donc quand je parle d'algorithme, avec l'expérience, dans ton cerveau, le moindre bruit, le moindre mouvement, la moindre silhouette, le moindre silence ou autre, ton cerveau l'analyse tout seul. Et donc tu sais tout de suite ce qui se passe. Et tu vois, y a, très souvent, on me demande comment je fais pour spotter certains animaux. Y a plein de fois où les clients sont vraiment étonnés, mais comment t'as fait ? Avec la vitesse du véhicule, la distance, etc.
Parce que toi, tu conduis, toi, tu fais tout, en fait. Tu fais conduite, guide, etc. Il n'y a personne d'autre dans ta voiture.
Non, je suis au volant de mon véhicule. Comme j'expliquais, quand j'ai plus de 6 clients, j'ai un deuxième véhicule qui est conduit par un guide local qui est un ami de très, très longue date. Donc, on fonctionne à deux. Mais sinon, quand j'ai moins de 7 clients, je suis tout seul avec mon véhicule. Et donc, oui, je conduis, je piste, je traque. Je pars de l'environnement, je pars de la faune aussi, évidemment, de l'histoire du pays, l'histoire du continent. Vraiment parler de tout. Tu peux parler autant de la géologie que des astres, que des lois du pays, que de la mécanique ou de premier secours. Enfin, vraiment, déjà, la formation est très complète, mais sur le moment du séjour, tu parles de tout. Parce que c'est ça qui est intéressant avec tes clients. Chaque semaine, j'ai à peu près 12 à 13 clients différents, avec des horizons différents qui viennent de soit des cultures, des niveaux sociaux différents. Donc, c'est toujours intéressant de partager. Donc, il y a toujours des intérêts ou des intéressements qui sont différents. En alerte, c'est comme ça que les gens le verraient, mais c'est mon cerveau qui sait ce qui se passe. Tu vois, par exemple, chaque animal, je les ai tellement vus plein de fois, sous tout angle, que même de très loin, une partie du corps, mon cerveau analyse tout de suite et reconnaît tout de suite l'animal. Et je vois très bien, moi, mon évolution entre quand j'ai commencé en me disant... Parce que moi, quand je suis arrivé à l'école de guide, je me suis dit, bon, avec l'expérience que j'ai eue étant gamin, les doigts dans le nez, tu parles.
C'est un vrai métier, c'est un vrai métier.
Ouais, c'est un vrai savoir-faire. Et je me rends vraiment compte de mon savoir-faire, de l'évolution de mon savoir-faire et de mes connaissances entre quand j'ai commencé et maintenant. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, plus je passe de temps en brousse, plus j'ai vécu d'expérience, plus je fais attention. Alors que je me disais, au fil du temps, je vais faire de moins en moins attention, je vais prendre mes habitudes. Et c'est comme ça que souvent les accidents arrivent. Alors là, plus du tout. Plus du tout. Maintenant, je ne fais plus. À l'époque, ça m'arrivait de m'amuser, partir en pleine brousse, à pied, en pleine nuit, tu vois, sans arme, sans rien, juste pour m'amuser, faire un tour. Maintenant, je sais quelque chose que je ne ferai plus.
Et t'as pas d'armes, là, quand t'emmènes des gens ?
J'ai pas d'armes. Alors, si je fais du safari à pied, je peux emmener une arme, un fusil avec moi, parce que c'est obligatoire à ce moment-là. Mais comme 98% de mes safaris se déroulent en véhicule ou en bateau, je n'ai pas besoin d'avoir une arme à feu avec moi. J'ai toujours à mes côtés une machette, au cas où, même sert surtout à dégager mon chemin quand j'ai les arbres en travers ou à me raser le matin. Mais sinon, j'ai pas d'arme à feu sur moi.
Au camp, il n'y a pas d'arme ?
Non, on peut pas appeler ça des armes, parce que c'est à la base des outils qui sont utilisés pour faire autre chose. Mmh. Donc on a des haches et des machettes, mais à la base, elles sont pas faites pour attaquer un animal.
Tu t'en es déjà servi contre un animal ?
Non, j'ai jamais eu à me servir d'aucun de mes outils. Si, un bâton, mais ça n'a rien à voir. Je me suis toujours bien débrouillé à ne pas avoir à me servir de quoi que ce soit. Et c'est parti de la formation, tu sais. Moi, je me souviendrai toujours, quand j'avais commencé ma formation, tu as donc plusieurs thèmes à faire et tu as un des thèmes qui s'appelle l'approche d'animaux dangereux. Et donc, tu le fais à pied. Donc, tu es avec ton formateur, on est 10 élèves, on nous met dans un buisson. Le formateur, il dit, tiens, Alex, tu vois, il y a une meute de lions là-bas. Je veux que là, tu les approches le plus proche possible. Sans qu'ils te repèrent, sans qu'ils te voient, et tu gères la situation. Donc, tu apprends à regarder l'angle de la lumière, le sens du vent, le comportement animalier, parce que si tu fais peur à certaines antilopes, le lion va voir que l'antilope regarde quelque part, etc., va essayer de tourner pour avoir le vent, pour sentir ce que tu es. Donc, tout ça, il faut anticiper. Et donc, tu fais ça une fois, puis après, tu reviens, tu as bien sué, et puis le formateur dit, maintenant, tu y retournes, je veux qu'il te voit, qu'il s'énerve, et tu gères la situation.
Il te dit ça.
Ouais, puis au début, tu dis, bah, t'es gentil, vas-y, toi.
Au lieu de rester planqué derrière ton arme.
Évidemment, tu y vas sans fusil. Le formateur, lui, reste en buisson avec un fusil, okay. Mais toi, tu y vas avec rien. Alors, je te dis pas qu'au début, tu es avec le sourire. Hein. Non, au début, tu dis, oui, bien sûr. Vas-y, en premier, montre-moi. Et puis, après, tu apprends. Et effectivement, quand tu as compris l'échange qu'il y a entre être vivant, de langage corporel et de respect, et tu l'as aussi dans le monde humain, c'est juste qu'on l'oublie, on ne se rend pas compte. Mais par exemple, les zones. Tu vois, tu as la zone de confort, la zone d'intéressement, la zone de danger. La zone de confort, tu te balades, les animaux, t'es inexistant, ils continuent de vivre leur vie. Zone d'intéressement, c'est que du coup, tu commences à arriver un peu trop proche, là, ils arrêtent leur activité et ils te regardent, ils t'observent, ils essaient de lire ton langage corporel, savoir si t'es un danger ou pas. Et après, t'arrives en zone de danger. Donc, soit, ce qui est la majeure partie du temps, l'animal fuit, soit après, il attaque. En général, les animaux fuient. Pourquoi ? Parce que l'attaque veut dire dépense d'énergie, dépense d'eau, possibilité d'être blessé. Donc, tout ça, ce sont des choses que les animaux veulent éviter. Tu le ressens, j'ai envie de te dire. Tu marches dans la rue, en tant qu'humain, t'as un autre humain qui est sur le trottoir en face, qui te regarde droit dans les yeux d'un air pas très aimable et qui change de direction et qui va droit vers toi, tu vas dire « Oula, il se passe quelque chose ». Pourtant, il t'a pas dit un mot, c'est 100% de langage corporel. Ça fonctionne pareil avec les animaux. C'est 100% comme ça.
Et t'es jamais blasé ?
Non, jamais. Jamais, c'est souvent ce qui amuse mes clients. Et d'ailleurs, encore une fois, excuse-moi de parler de ça, mais tu peux voir dans le reportage, je suis toujours comme un gamin. Quand je vois les animaux...
T'as les mêmes émotions.
Ouais, évidemment, quand je trouve des lions, les gens, très souvent, m'ont toujours « Est-ce qu'on peut voir des lions ?» Je dirais que c'est le seul prédateur que je peux plus ou moins garantir, parce que je sais que je vais en voir les autres, je sais que je vais les voir aussi, mais je ne peux pas les garantir, on ne sait jamais. C'est des fois très compliqué. Certains animaux, comme le léopard qui est très compliqué à trouver, le guépard aussi, ou les fameux lycaons, qui sont les loups sauvages d'Afrique, qui sont très recherchés au Botswana, je ne les vois pas à chaque safari, tu vois. Alors que les lions, oui, et évidemment, quand je vois des lions qui sont vautrés sous un arbre à dormir, bon... C'est des lions, pour moi, ça passe, c'est pas grand-chose. Par contre, de les voir en action, je suis toujours excité comme une puce, et je parle, c'est-à-dire que je regarde ce qui se passe, et j'explique de la situation, et ce qui va se passer, c'est d'anticiper certaines choses, savoir passer le véhicule au bon endroit, par rapport à la scène. Et ouais, je suis toujours très pris, parce que voir l'animal, c'est intéressant, le voir en action et comprendre ce qui se passe, c'est complètement autre chose. Et il m'arrive de voir des choses que j'ai encore jamais vues. Des lions, j'en ai vu à l'appel, léopards, guépards, tous les animaux les plus rares, les plus compliqués à trouver, j'en ai vu plein, mais leurs actions, leur comportement, il y a encore plein de choses que j'ai jamais vues et je suis encore surpris tous les jours, vraiment tous les jours.
C'est quoi ta plus grande peur ?
Il y a une fois où j'étais un peu surpris. Il ne faut pas nager dans le delta de l'Okavango. Moi, évidemment, avec mes potes, on nage dedans. Et un jour, j'ai plongé. On avait fait un joli masque de plongée. Et on essayait d'aller dans les roseaux pour aller pêcher certains poissons au harpon. Notamment le poisson de tigre. C'est un poisson qui a tellement de dents qu'il n'arrive même pas à fermer la bouche. Mais bon, qui est très particulier, qui est très joli. Et en fait, en plongeant, en mettant le masque, je me suis rendu compte qu'il y avait un croco qui était allongé au fond de l'eau, juste en dessous de notre bateau. À ce moment-là, tu te dis « Ah oui !» Parce que le premier réflexe que tu as, surtout quand tu es dans de l'eau, vu que ce n'est pas ton élément principal, c'est que tu paniques. Tu vas remonter tout de suite dans le bateau. Et alors là, si tu fais ça, bah, tu finis en casse-croûte. Donc ouais, ça, c'était une fois où ça m'a mis une sacrée peur.
Mais tu as fait quoi?
Bah, je suis remonté et
doucement.
J'ai dit à tout le monde « On remonte tous dans le bateau, crocodile en dessous. » Et l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de dire plus de mots que ça. Hein, tout le monde a compris.
Ils font peur, les crocodiles, c'est dangereux.
Ouais, oui, bien sûr. Ils sont présents partout. Tu vois, ça amuse aussi beaucoup des gens de mon entourage. Mais au Botswana, partout où t'as de l'eau, t'as les crocodiles. Et du coup, moi, quand je rentre en France ou dans d'autres pays, tu vois, il y a pas si longtemps, j'étais au Mexique, on me dit, vas-y, viens, saute dans cette eau claire, dans un endroit qu'on appelle les cénotes, je sais pas si tu connais. Au début, j'ai dit non, t'es gentil, non, je sais ce qu'il y a au fond de l'eau. Et on me dit, mais absolument pas. Et y a pas. Et moi, du coup, je me disais, mais attends, de l'eau aussi transparente, dans ma tête, il y a forcément les crocodiles. Bon, finalement, je me suis baigné, il n'y a pas de crocodiles. Après, je vais dans la mer, on me dit, vous savez qu'il y a des crocodiles ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays?
Ils savent pas.
Donc, ouais, tu vois, par exemple, je vais raconter une histoire un peu triste, mais par exemple, j'ai perdu mon chien avec un crocodile. J'étais en safari, j'ai laissé mon chien chez un copain qui est parti dans un pub, et là-bas, tous les endroits sympas sont le long de la rivière. Il faut vraiment imaginer que c'est très, très rustique comme endroit. Mmh. Tu vois, la plupart des bars, c'est... Enfin, des bars, façon de parler, ou des pubs, c'est quatre troncs d'arbres avec un toit de tôle ou de chaume, une espèce de bout de bois qui fait un bar où on te sert, et puis c'est tout. Puis après, t'as du sable partout, tu t'assois au bord de la rivière, sous les palmiers. Enfin, tu vois, c'est vraiment... C'est paradisiaque comme endroit. Et effectivement, du coup, il allait voir quelques amis au pub et mon chien a descendu sur la rivière pour boire un coup. Et c'était à midi et malheureusement, il s'est fait attraper par un crocodile. Il s'est fait attraper et manger devant tout le monde, quoi.
Mais non.
Et, ouais. Et moi, j'étais en safari, donc je ne savais pas parce que je n'avais pas de réseau en plus. Et effectivement, dès que j'ai eu du réseau, mon téléphone sonnait dans tous les sens. Qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai appris que mon chien était parti. Donc ouais, il faut faire très attention parce que... Comme je dis très souvent, le Lhotse Kavango, c'est le désespoir des nageurs. C'est de l'eau transparente, t'as des palmiers, t'as des roseaux, des papyrus, t'as des algues magnifiques, t'as du sable blanc au fond de l'eau, t'as qu'une envie, c'est de plonger. Par contre, le pourcentage de chances de remonter à la surface, il est très faible, quoi.
Et les animaux, ils attaquent jamais, là, dans les pubs, tous les animaux sauvages, ils viennent un peu autour des villages et tout, ou pas du tout?
Alors, ça dépend si... Moi, j'habite dans une... Ça s'appelle un village, mais on va appeler ça une ville. Mm-hmm. Donc, tu as des villages qui sont retranchés en pleine brousque. Donc, eux, ils ont tous les animaux sauvages autour d'eux. Moi, je suis dans une ville dans laquelle il y a d'exploitation bovine. Et donc, autour de la ville, on a une barrière vétérinaire. Donc, tu vois, au Botswana, autour des parcs nationaux, tu as zéro barrière. Mais autour d'accord. des villes, tu en as. Donc, c'est nous qui sommes parqués comme des bêtes. Et c'est
ah
ça
ouais.
que j'aime bien.
D'accord.
Ouais.
OK.
Ce qui permet aux animaux, du coup, de pouvoir migrer à travers le pays. Pourquoi on a cette barrière vétérinaire autour de la ville? Comme j'expliquais tout à l'heure, le troisième revenu économique du pays, c'est la viande de bœuf, l'élevage. Et il y a quelques années, et encore nos jours, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on parlait de la fièvre aphteuse. Mm. Et en fait, l'animal qui est porteur de la fièvre aphteuse, c'est le buffle sauvage dans sa salive. Et donc, il faut absolument éviter que le buffle sauvage rencontre le bœuf domestique. Donc voilà pourquoi ils ont fait cette barrière
okay.
autour. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, le bœuf, pourquoi il est aussi bon et qu'il est exporté, qu'il a telle réputation, c'est qu'ils ne sont pas parqués dans des champs, nos bœufs, au Botswana. Ils sont complètement libres en pleine brousse, absolument pas nourris par l'humain. Ils se nourrissent 100% de matériaux biologiques et naturels. Voilà pourquoi ça fait une viande très tendre, bien particulière, vu qu'ils sont complètement libres et qu'ils travaillent. C'est-à-dire que tu peux être au feu rouge avec des vaches qui t'empêchent de passer le carrefour. Et en même temps, tu fais 2 kilomètres en dehors du centre-ville, tu es tout de suite en pleine brousse et tu as quand même des vaches et autres. Alors, il arrive évidemment que tu as quelques animaux qui passent cette barrière, notamment les éléphants, hein, qui au début les cassaient et maintenant ont compris qu'il fallait les enjamber. Parce que si les enjambes, ils les cassent pas, du coup, ils se font pas chasser par l'humain.
Et eux, ils débarquent. Eux, ils débarquent dans la ville.
En centre-ville, non. Mais juste en extérieur du centre-ville, oui. C'est-à-dire que si tu prends le centre-ville, tu fais 2 kilomètres. Tu as des éléphants, ouais, tu peux en avoir. Ouais. Moi, devant chez moi, j'habite en extérieur centre-ville. Je suis à 2 ou 3 kilomètres du centre-ville. Devant chez moi, je peux avoir des éléphants. J'ai les hippopotames dans la rivière, j'ai les crocodiles. Donc, tu vois, ces animaux aquatiques vont passer. Tu peux avoir quelques prédateurs qui sont passés du côté de la barrière, mais qui vont rester, du coup, entre la barrière et le début de la vie un peu civilisée. Parce que tu as quand même une petite partie de brousse autour de la ville. Donc là, tu peux avoir quelques léopards, quelques lions, quelques antilopes. Mais tu les vois jamais, parce qu'ils veulent surtout pas rencontrer l'humain. Donc ils sont là, parce que comme ça, ils sont loin des territoires des autres animaux, ils sont peinards, et ils sont pas loin des humains, mais ils veulent pas les rencontrer non plus, parce que sinon...
Oui, en fait, eux, ils veulent pas nous rencontrer, de toute façon.
C'est ça, c'est ça. Tu montes à Cassané, qui est la ville au nord, qui est collée au parc national de Chobé. Là, vu que c'est collé au parc national, ils font pas d'élevage bovin, tu as zéro barrière. Donc, devant ton supermarché, tu peux avoir des éléphants, des buffles, des lions, etc. Ce qui m'est déjà arrivé, d'ailleurs, aussi.
Et il n'y a pas trop d'accidents ?
Alors, tu as un peu d'accidents. Il y en a quand même, hein, malheureusement. Essentiellement avec hippopotames, éléphants et crocodiles.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que les gens vont à la rivière pour faire le linge, par exemple, dans les villages bien retranchés. Et dans l'eau, tu as hippopotames et crocodiles. Et les éléphants, eux, se baladent à travers le pays. Et tu vois, en pleine brousse, moi, je travaille à certains villages, des fois en expédition. Tu vois, les gamins, ils ont 4, 5, 6 ans. Ils vont à l'école et ils vont marcher 3 km en pleine brousse.
Avec tous les animaux sauvages.
Donc, ils sont avec leur petit uniforme, leur petite chaussure vernis, leur petit cartable. Ils se tiennent la main et ils marchent. Il n'y a pas un adulte avec eux. Et à côté d'eux, sur le bord de la route, tu as des lions, tu as des éléphants. Mais ils ont grandi avec ça. Donc pour eux, c'est complètement normal. C'est comme toi, tu ne regardes pas le pigeon qui a l'arrêt de bus. Mmh. Et eux, c'est normal. Et des fois, tu es vraiment impressionné. Donc tu as quand même quelques accidents avec éléphants, hippos et crocodiles. Ça, c'est ce qu'il y a le plus dans la population locale. Tu peux avoir un peu de serpent, un peu de scorpion, mais ce n'est pas du tout une majorité. Pas du tout. C'est des choses qui font très peur, qui sont très dangereuses, encore une fois, mais le pourcentage de chances de se faire mordre par un serpent ou piquer par un scorpion, il faut vraiment aller le chercher, ou alors c'est vraiment pas de chance.
T'en as des touristes qui déconnent un peu, parfois ?
Ouais, bien sûr, ouais. J'ai des fois ce que j'appelle les Indiana Jones. C'est ceux qui connaissent mieux l'Afrique que le guide ou que les locaux, en général.
C'est ceux qui s'habillent généralement en tenue entière d'expédition.
T'as tout compris.
Pour s'asseoir dans leur voiture toute la journée.
Ils ont 50 couteaux et lampes torches autour de la ceinture. Ils ont des poches de partout, le chapeau de cuir. Et puis, ils te disent, j'ai fait le Kenya, j'ai fait la Tanzanie. Donc ça, t'en as de temps en temps. Et c'est eux qui peuvent être des soucis parce qu'ils ont tellement une certaine confiance. Ils ne se rendent pas compte, en fait, déjà que moi, ils vont m'apporter des problèmes. Et du coup, ils s'attirent des soucis. Tu vois, je vais te raconter l'histoire d'un monsieur qui était d'origine italienne, qui était gentil, mais vraiment un Indiana Jones. Déjà, j'ai vu arriver à l'aéroport, il y a un chapeau plus grand que ses épaules et un couteau qui dépassait son genou. Je me suis dit, OK. Premier soir autour du feu, après j'ai fait mon speech, il raconte à tout le monde toutes ses expériences de brousse, etc. Et moi, j'ai bien expliqué dans mon speech de sécurité qu'il ne faut absolument jamais descendre du véhicule sans mon autorisation. Qu'on peut évidemment descendre, qu'on me demandera toujours en premier. Je m'arrêterai, par exemple, une pause technique, aucun problème, je m'arrête. Je descends du véhicule, je vais vérifier un buisson pour être sûr qu'il n'est pas déjà occupé par quelqu'un. Et ensuite, j'autorise la personne à y aller. Faut toujours faire ça, parce que on peut penser à un animal qui est couché, tu vois, au pied du buisson. Mmh. Mais dans le buisson, tu peux aussi avoir un serpent, par exemple. Donc, pour ça, il faut vraiment regarder partout. Et j'étais en train de ralentir parce que j'allais justement m'arrêter. On allait faire notre petite pause café du matin. En général, la matinée, je la coupe en deux. Donc, après notre petit déjeuner, on part en brousse. Donc, entre 5h30 et 6h du matin, on est dans la voiture, on est en safari. Et sur les coups de 9h, on fait une pause thé et café. Et on repart en safari jusqu'à midi. Donc, je ralentissais. Et là, je ne l'ai pas vu. Il a sauté du véhicule au moment où j'étais en train de ralentir. On était à très basse vitesse. Mm-hmm. Et il est parti derrière un buisson. J'arrête le véhicule et là, tout d'un coup, j'entends quelqu'un crier derrière moi. Et donc, je tourne la tête et là, je vois un buisson bien rond avec d'un côté...
L'Italien.
Un Indiana Jones avec son caleçon et son jean au niveau des chevilles en train de courir et de l'autre côté, un buffle mâle qui s'en va. Donc là, il a eu énormément de chance parce que dire un buffle, c'est une vache. Non, c'est le deuxième animal qui tue le plus en Afrique. C'est extrêmement violent, c'est extrêmement agressif, un buffle. Tu vois, tu disais tout à l'heure, les animaux dangereux. C'est dangereux, vraiment dangereux quand c'est agressif. Le buffle est agressif. Puis il ne réfléchit pas, il te fonce dessus. Donc je pense qu'il a dû arriver derrière le buisson et que le buffle devait être sûrement endormi et de dos. Et donc le buffle, par réflexe, par peur, il est parti tout droit. Et moi, quand j'ai vu ça, tu me dis, mais la panique, je suis impuissant, je suis au volant de ma voiture, je suis à 15 mètres, peut-être même 20. J'ai un buffle et un mec avec son froc au niveau des chevilles. Là, donc évidemment, je suis descendu, donc je lui ai passé un savon devant tout le monde, qu'il a très bien compris, et évidemment, le reste du séjour, il m'a obéi au doigt à l'œil. Non pas dans le sens que je veux imposer une certaine autorité, mais je veux qu'il se rende compte du danger qu'il a porté pour lui-même, mais au sein du groupe. Parce que s'il y avait eu pire, c'était à moi d'aller l'aider.
Ouais.
Et moi, s'il m'arrive quelque chose, après, les gens font quoi derrière ? Et enchaînement, tu vois. Donc chaque fois, je dis... Et l'avantage, c'est qu'il y a certains moments, surtout avec ces gens-là, où la brousse et la nature les remet à leur place d'elles-mêmes. Les fois où tu as un animal qui te charge, ou un animal qui rentre dans le camp, ou tu tombes nez à nez avec un animal à pied très proche, très souvent les gens tout d'un coup se rendent compte qu'ils sont complètement impuissants face à ça, malgré leur expérience de deux safaris qu'ils ont fait en 95 dans le Kenya. Et du coup, ça m'aide, moi, du coup. Alors,
ça remet tout le
voilà,
monde.
Je ne suis pas là pour te montrer une certaine autorité, te dire, faut m'écouter, c'est moi le boss. Non, c'est parce qu'on veut tous sortir de là vivant et avoir une super expérience et éviter les conneries.
Et alors, les enfants, tu les embarques ou pas?
Les enfants, je les embarque et ils sont absolument merveilleux en safari. On ne veut pas d'enfants en dessous de 8 ans. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, la brousse. Tu vois, la voix d'un gamin dans une voiture, quand tu es face à des lions, un prédateur, est reconnue. Tu vois, ici, tout le monde parle et tout d'un coup, il y a un gamin qui part dans la voiture, les lions vont la tête et te regarder.
C'est vrai?
Parce qu'ils reconnaissent, oui, bien sûr, ils reconnaissent le cri des jeunes animaux. Ils savent si t'es une jeune antilope, si t'es un jeune, peu importe ce que t'es, et notamment si t'es un jeune humain. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'ils peuvent être attirés et tenter le coup. Ou tout simplement une pause, tu vois, je faisais la pause café tout à l'heure, ou la pause pique-nique, ou même quand t'es au camp à midi ou le soir, le gamin, très vite, hein, il peut gratouiller la terre, et passer derrière un arbre, et derrière un deuxième, il passer derrière une tente, et tu le vois pas en deux secondes. Et c'est là que les silences peuvent passer. Parce que si un prédateur n'a pas envie, tu le vois, tu ne le verras pas. Notamment ouais. Le léopard, tu vois, par exemple. Le léopard, je sais que, par exemple, en Asie, il fait énormément de dégâts, parce qu'il vit avec l'humain dans les villes, et il tue et il mange énormément de jeunes humains, des petits bébés. Donc, tu vois, c'est pour ça que dans les villages africains, les maisons sont toujours avec une protection autour du village. Par exemple, les Maasai, qui sont en Afrique de l'Est, mettent toutes ces branches d'acacia remplies d'épines. Mm-hmm. Au Botswana, on utilise, nous, des roseaux qui font une clôture très serrée, ce qui fait que ni même serpent peut passer à travers, tu vois. Donc, ça fait un petit enclos bien fermé où les enfants peuvent jouer, etc. Voilà. Donc, et puis, en dessous de 8 ans, très souvent, les gamins vont très peu se souvenir de ce qu'ils ont vécu. Voilà pourquoi je dis c'est un voyage qui coûte cher, c'est un voyage unique. Tu me parlais tout à l'heure pourquoi le Botswana. Faut savoir que le Botswana, c'est aussi l'un des rares pays d'Afrique qui n'a pas été colonisé. C'est un protectorat. Donc l'entente sur place entre humains, quelle que soit la couleur, la culture, l'origine ou autre, est géniale. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de différence, tout le monde s'entend. C'est vraiment une terre, j'ai envie de dire, très accueillante. Et ça, il faut vraiment le sentir. Tu vois, tu vas faire des tours, par exemple, en Afrique du Sud ou autre, tu sens encore la différence. Au Botswana, tu ne la sentiras pas. Et je pense que pour un enfant, c'est important qu'il se rende compte de ça. Et ce qui fait, pour moi, c'est une des plus grandes parties de la beauté du Botswana. En dehors de tout ce qui est sauvage, naturel, c'est cette culture qui est docile, qui est calme, très, 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 très peu de racisme, on ne fait pas de différence. Tu vois, c'est pour ça que notre emblème, c'est le zèbre du rayure. Le blanc et le noir vivent ensemble en parfaite harmonie. Tu vois. Moi, je trouve ça fabuleux. Et j'aimerais tellement que ce monde soit comme ça, mais bon, c'est pas forcément partout pareil. Donc voilà, je pense que les enfants à partir de cet âge-là peuvent ressentir la singularité du Botswana dans son ambiance complète, que ce soit sauvage ou même civil. Et puis bon, l'avantage des enfants, c'est que dès qu'ils ont trouvé une bête, en général, ils sont fascinés. J'ai rarement eu quelqu'un ou un enfant qui n'a pas aimé son voyage. Tu vois, tu peux avoir un peu de difficultés, je dirais, sur des adolescents. Tu vois, 15, 16, 17, bon, faut à fond les réseaux sociaux, les téléphones et toutes ces conneries. Vu que nous, on ne l'a pas là-bas, ça peut être compliqué. Mais encore une fois, toutes les fois où j'ai eu des ados de cet âge-là, les parents savaient qu'ils emmenaient cet enfant-là pour cette raison-là.
Mais tu l'as embarqué, toi, dans l'aventure, quoi.
Bien sûr, et c'est mon but. Et en plus, quand j'ai des jeunes, moi, ça me fait plaisir parce que, comme je dis, la majorité de mes clients sont nettement plus âgés que moi, et c'est normal, c'est un pays qui coûte très cher. Mais justement, si je peux essayer de partager mon savoir et donner ma passion, partager ma passion à quelqu'un qui vient découvrir, j'essaye parce que ça me permet de me rapprocher de la personne, qu'il me fasse part de ce qu'il aime lui, de ses intérêts, etc., et qu'on puisse échanger. Et puis, tu vois, les gamins, surtout les jeunes gamins, je les mets à l'avant avec moi toujours pour les avoir sous la main, parce qu'un gamin à l'arrière, tu sais, qui monte, qui saute sur la voiture, sur les sièges, etc., qui peut attirer les animaux, ça peut être un danger. Donc, je les mets avec moi pour qu'ils soient en sécurité. Pour ma sécurité aussi, d'ailleurs. Et tu vois, je vais leur donner 3 techniques pour trouver les animaux. Ou je vais prétendre que je n'ai pas vu, par exemple, une meute de lions. J'ai dit, tiens, ça sent le lion, ça doit être par là-bas. Puis je regarde complètement à l'opposé.
Trop sympa.
Et puis je fonce tout droit vers les lions, parce qu'attends que le gamin y trouve. Et puis, ah, tu peux être sûr qu'il a
accroché. C'est trop sympa, quand même.
À la voiture toute la semaine. Ouais. Non, franchement, les gamins, c'est un bonheur.
Et comment je fais si je ne suis pas si riche, mais que j'ai envie de découvrir le Botswana? Je peux ou non?
Alors oui, ça dépend. Tu peux toujours partir avec ton sac à dos. Comme je dis, le Botswana, dans tous les cas, il a un coût. Tu vois, par exemple, il n'y a pas de vol direct au Botswana. Tu es obligé de passer par l'Afrique du Sud. Déjà, si tu t'en sors bien, la moyenne des prix en billets d'avion, c'est un SMIC. Pas cher, mais tu es déjà obligé de mettre un SMIC pour déjà seulement y aller. Donc oui, et après, tu peux faire en sac à dos. Tu peux, si tu as envie, faire du safari en budget, donc en pas cher du tout, avec la tente sur le sol. Ou alors, tu peux faire ce qu'on appelle de l'overland. Donc, c'est ces gros camions qui sont transformés en autobus, qui font plusieurs pays. Ça, c'est un peu l'aventure, c'est sympa. Mais tu n'auras jamais une immersion au sein de la brousse comme tu peux avoir sur un safari comme le mien. Tu vois, tout à l'heure, tu me parlais aussi de la possibilité de louer des véhicules tout équipés, faisant ça de manière itinérante et autonome.
Tout seul, ouais.
Je sais que, en tout cas sur le marché francophone, ça se vend quand même de moins en moins. Au Botswana, j'entends, hein, l'Afrique du Sud, par exemple, ou surtout la Namibie, que moi, je conseille à faire en autotour, parce que c'est une expérience géniale, parce qu'il y a très peu de danger, parce qu'on ne peut pas se perdre, etc. Au Botswana, faire de l'autotour, si tu ne sais pas conduire dans le sable, si tu ne sais pas conduire dans l'eau, si tu ne sais pas gérer la pression de tes pneus, un peu de mécanique, le comportement animalier, comprendre que tu es au milieu de la vraie brousse sauvage. Quand tu penses qu'il n'y a rien, il y a du monde autour de toi. On te voit, on te sent, on t'entend. Je ne te raconte pas, je peux te raconter des histoires de personnes en autotour que j'ai vues se balader en plein milieu de la brousse, à pied, et en me disant, mais enfin, il n'y a rien. Et je leur disais, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites.
Tu m'as dit que tu avais sauvé un mec qui se faisait manger par des hyènes.
Ouais. Raconte-moi. Je te raconterai aussi une histoire avec...
Les hyènes, raconte-moi les hyènes.
Une mère avec ses gamins. Alors, les hyènes, ça, c'était cette année. C'était le soir, on était au camp avec mes clients, on était au dîner, on était au dessert. Et le dessert était très, très bon, ce qui fait que les gens étaient plutôt silencieux. On dégustait notre dessert. Et ce qui est très, très rare, mais pour une fois, on avait un campement privé qui était proche des campements publics. Donc, les campements publics sont là où les gens en autotour viennent avec leur véhicule loué ou personnel, parce qu'il faut savoir que 90% des campings publics sont réservés 2 ans à l'avance par les Sud-Africains.
D'accord.
Les Sud-Africains blancs viennent avec leur propre véhicule parce qu'ils veulent faire des safaris dans le vrai monde sauvage et pas chez eux. Ces emplacements-là, tu as un bâtiment sanitaire et chacun a son petit rond d'emplacement avec sa grille pour faire un barbecue, pour faire son feu, etc. Là, moi, où je campe, il n'y a rien, absolument rien. On amène 100% de l'équipement. Et là, par pur hasard, on doit être à 2 km, quelque chose comme ça, sauf que tu es en pleine brousse. Du coup, le bruit porte énormément. Et là, pendant qu'on est au dessert, on entend un monsieur qui hurle de toutes ses forces et il hurle pour sa vie. C'est un cri que tu n'as jamais, quasiment jamais entendu dans ta vie. Et quand tu l'entends, ça te
met
les frissons. Tu n'as qu'à entendre dans les films d'horreur et c'est joué dans les films d'horreur. Et donc là, évidemment, j'ai 100% de mes clients qui ont fait la tête, qui sont tous braqués sur moi. Donc j'aurais dit, bah, oui, vous avez compris qu'il se passe quelque chose là. Sachant qu'il n'y avait personne d'autre d'expérimenté dans le coin, j'ai dit, bon, je vais aller voir ce qui se passe. Étant donné que j'avais mon autre guide avec moi, je lui ai dit, écoute, prends soin des clients, je prends ma voiture, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. J'ai 2 de mes gars qui sont montés dans mon véhicule et je suis parti et je suis arrivé dans l'endroit des campements publics. Et quand je suis arrivé, il y avait un amas de personnes. Et donc tout de suite, ils me voient arriver avec le véhicule de safari en uniforme, donc je descends, donc les gens comprennent que je suis un professionnel et je viens voir ce qui se passe. Et on me dit tout de suite, il est là-bas. Je dis, bon d'accord, première question, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant ? Non, il est vivant, bon, tant mieux. Et c'est vrai que c'est marrant parce que tu vois dans le regard des gens, quand tu poses cette question-là, qui pour moi est une question, quand je dis normal, je ne dis pas que je pose cette question tous les jours, mais moi je connais mon environnement, je sais où je travaille, donc première question, est-ce qu'il est mort ou pas ? Parce que s'il est mort, ça peut être un souci. Parce que d'autres animaux peuvent venir après pour essayer de manger ou autre. S'il est blessé, s'il saigne beaucoup, est-ce qu'on peut le protéger tout de suite ? Parce que tracer, enfin, quand tu saignes et tu te balades, tu laisses un GPS pour les animaux. Donc il va falloir anticiper toutes ces choses-là. Donc je pose la question, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant ? Les yeux tout ronds, non, il est vivant, tant mieux, emmenez-moi. J'arrive sur place, et au moment où j'arrive, en fait, je vois 2 chaises de dos autour d'un petit feu de camp, et en face d'eux, un véhicule, leur 4x4 avec les tentes sur le toit. Et il fait nuit noire. Et j'arrive au-dessus du monsieur, et je me rends compte que le monsieur est assis, et que sa jambe droite, au niveau de la cuisse, son jean est complètement arraché, et je vois juste une toute petite goutte de sang. Donc j'arrive, je dis, bonsoir monsieur, est-ce que vous êtes celui que j'ai entendu hurler ? Oui, c'est bien moi. J'ai alors, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ah bah on était là et tout d'un coup je me suis retrouvé avec une hyène entre mes jambes et avec ma cuisse dans sa gueule. J'ai dit ok très bien, comment ça se fait que vous êtes en arrivé là ? Ah non, avec mon fils, on avait décidé, mon fils de 19 ans en plus, de s'endormir dans nos chaises autour de notre feu de camp et de passer la nuit comme ça. Tu vois, ça c'est des choses qui m'exaspèrent parce que de un c'est interdit, ils ont signé des papiers pour ça. Et
qu'est-ce qui est interdit ? Tu t'endors pas après ton feu de camp, tu vas te coucher dans ta tente.
Tu t'endors pas, tu te balades pas en pleine brousse à pied, c'est interdit. Tu dors pas après ton feu de camp sans aucune protection, tu vas dans ta tente.
Dans
ta tente t'es safe. Et ça c'est partie des choses que je dis toujours à mes clients et très important pour moi qu'ils soient au courant que dans leur tente ils sont en parfaite sécurité. Notamment qu'elles sont nettement plus grandes que la plupart des tentes qui sont utilisées par les autotours. Mais les autotours, la plupart du temps, ils ont les tentes sur le toit. Donc, ils sont là et ils me disent qu'ils ont décidé de dormir comme ça. Je dis, vous savez que c'est interdit de dormir en dehors d'une tente et de la façon dont vous le faites. Et de deux, à faire votre bêtise, là. Vous êtes fait, du coup, il y a une hyène qui est venue. Comme je dis, c'est pas agressif, une hyène, mais par contre, c'est opportuniste. Donc, elle arrive, les 2 plus grands prédateurs sont face à elle, 2 mâles du prédateur ultime, mais ça réagit pas. Ils dorment. Donc, forcément, elle veut savoir ce qui se passe. Et j'ai eu de la chance, hein, parce qu'il s'est réveillé quand même avec la tête entre les jambes. Donc, la hyène est venue. Elle dit, c'est quoi ce truc-là ? Elle a pris la cuisse et elle l'a mis dans sa gueule, puis elle a commencé à mordre. Sauf qu'une hyène, c'est 800 kg par centimètre carré dans la bouche. C'est le mammifère terrestre avec la plus grande pression sur Terre. Donc évidemment, quand ça ferme la bouche, ça fait mal.
Mais elle lui a pas arraché la cuisse quand même.
Non, parce que du coup, lui, ça l'a réveillé d'un coup sous la pression. Donc, il s'est levé en hurlant. Il a ouvert les yeux, il a trouvé une hyène. C'est-à-dire que les hyènes au Botswana, surtout les femelles dominantes, elles sont énormes. Tu vois, je te parlais tout à l'heure, j'ai passé un an au Kenya. Il y avait les hyènes qui venaient tous les soirs dans la construction du camp. Quand je suis arrivé au Botswana, je me suis dit, attends, il y a un souci. Au Botswana, c'est le double en taille.
Ah ouais.
Ah ouais, il y en a qui font 80 cm au garrot. Donc, c'est des monstres. Et donc, voilà, il s'est réveillé avec cet animal-là entre ses jambes et sa cuisse dans la gueule. Donc, il a hurlé. Donc, c'est ce qu'on a entendu, nous. De peur et de terreur et pour sa vie. Et donc, c'est à ce moment-là que la hyène, je pense, a été impressionnée parce qu'elle a dû se lever. Donc, d'un coup, bah, le prédateur ultime qui se lève, qui hurle, qui réagit, elle a dû avoir peur, elle a lâché et elle est partie. Et ce qui est amusant, c'est que moi, elle est partie au moment où j'arrivais. Et en fait, elle
tu l'as croisée ?
Non, pas moi, mais mes clients, avec mon collègue. Elle est arrivée dans mon camp, cette hyène-là, tu vois. Et direct, mon collègue, lui, ne sachant pas ce qui se passait, il avait entendu le cri, mais il ne savait pas que c'était une hyène ou autre. Il a vu cette hyène arriver. C'est ce qu'il m'a dit après, quand je suis moi rentré au camp. Il m'a dit, Alex, c'était une histoire avec une hyène, non? Je dis, ouais. Il me dit, parce que là, je viens de voir cette femelle, comportement très bizarre, complètement excitée, d'avoir fait quelque chose qu'elle n'a jamais fait avant. Tu
ah
vois.
Ouais.
Et elle est venue vers nous comme si on était, comme si c'était un toutou, tu vois, tout content qu'il voulait qu'on la gratouille. Et elle est repartie, tu vois. Il m'a dit, c'est très bizarre. Et je lui dis, oui, c'est effectivement une hyène. Donc, la hyène est partie. Par pur bonheur, elle lui avait arraché le jean. Mais elle lui avait enfoncé qu'une seule canine. Donc moi, je lui dis, oh mec, je lui dis, écoute, honnêtement, moi, je suis pas content parce que t'as fait une connerie, t'as pas respecté la loi. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, c'est un animal sauvage qui s'est rendu compte que l'humain n'a aucune défense et qui est facile à bouffer.
Elle devient donc, très dangereuse,
donc
en fait.
Donc elle devient dangereuse. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, les rangers vont la chercher et la tuer.
Ah ouais.
Donc moi, je peux être très froid dans ce que je dis. Moi, ça me dérange pas que ce mec-là il meure. Pourquoi ? On est 8 milliards d'humains sur la planète, on est trop. La seule vraie surpopulation animale qu'on a sur la planète, c'est nous. Par contre, des hyènes ou des autres animaux sauvages, on en a pas assez. Donc, à cause de ces conneries, son non-respect des règles, on va devoir tuer un animal qui n'a rien demandé.
Ils vont la chercher vraiment, les rangers ?
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, quand ça se passe comme ça, ça devient très compliqué. Parce que quand tu as des prédateurs comme lion et léopard, c'est facile à traquer et à reconnaître celui qui a fait la bêtise.
D'accord.
Une hyène, c'est compliqué. Parce qu'elles sont plusieurs la nuit, elles peuvent se mélanger. C'est toujours la nuit, tu vois, pas bien. Une hyène ou trois hyènes, ça va faire 50 fois le même aller-retour sur la même piste. Donc, tu as l'impression qu'il y a 50 hyènes qui sont passées alors que c'est la même. Tu arrives dans le terrier, elles peuvent être 3, 4, 5, 6, 10, 20 dans le même terrier. Donc, c'est jamais facile. Et je sais que cette hyène-là n'a jamais été recherchée, et tant mieux. Mais moi, c'est partie des choses qui m'exaspèrent. Quand on arrive dans un pays, on respecte les lois et les règles du pays. Ça m'embête beaucoup plus de savoir qu'un humain doit tuer une hyène pour ça, plutôt qu'un humain qui soit fait tuer par une hyène parce qu'il n'a pas respecté. Quoi. Encore une fois, c'était l'humain qui était chez la hyène et non l'inverse.
Et tu as un kit de pharmacie, etc., si jamais il faut recoudre quelqu'un ou un truc comme ça ?
Ouais, nos véhicules, que ce soit camion d'intendance ou les véhicules de safari, on est équipé de kits de secours avec tout un tas de médicaments, les couvertures de survie, on a l'aspivenin si jamais on se fait piquer par un scorpion ou par un serpent. On a vraiment un tas de choses. Et puis, de toute façon, pour être guide, t'es obligé de passer des niveaux de
formation.
Secours.
Ouais. Et après, c'est quoi la sécurité ultime si vraiment t'as un méga souci? Comme par exemple, tu dis l'Italien qui allait faire pipi avec son buffle. Bon, finalement, le buffle l'écrase. T'as des... Je sais pas, tu peux envoyer du feu. T'as un téléphone rouge. T'as quoi?
J'ai le téléphone rouge. Ouais, non, j'ai un téléphone satellite. J'ai un téléphone satellite et on a un contrat avec la société de secours. Donc, si jamais il y a le moindre souci... Tous nos clients, une fois qu'ils se sont enregistrés sur un de nos voyages, sont automatiquement enregistrés dans la base de données de la société de secours. Toutes les boîtes ne font pas ça, mais nous, on le fait. Pour moi, c'est primordial. Oui, ça, du coup, ça rajoute un coût. Donc, plus cher pour les clients et nous, une perte de marge, évidemment. Mais ce n'est pas ça qui est recherché. C'est éviter le moindre souci. Et donc, ça m'est déjà arrivé, oui, de sortir le téléphone satellite et d'appeler les secours qui sont venus en hélicoptère pour sauver des clients.
Ils viennent te chercher n'importe où.
Oui, ouais, alors, l'avantage, c'est que quand on est guide, on sait où on est. Mmh. Hein, parce que évidemment, s'il arrive quelque chose au guide et que les clients qui va prendre le téléphone satellite, ils vont dire ok, pas de problème, vous êtes où ? Là, c'est un souci.
Toi, tu leur expliques comment il marche le téléphone au début du truc.
Ouais, ouais. Et après, surtout, je l'explique si je suis le seul en safari, ce qui est très rare de nos jours. J'ai toujours mes safaris sont quasiment tout le temps complets, donc j'ai toujours deux véhicules,
d'accord.
Donc on a toujours deux guides. Donc je leur explique comment fonctionne la radio, mais pour communiquer avec les autres guides aux alentours ou les autres sociétés ou mon bureau qui est en ville, et sinon le téléphone satellite, comment ça fonctionne. Pour pouvoir appeler les secours. Ouais.
Ouais. Et tu me racontais la mère avec ses enfants.
Ah oui, alors ça aurait été dans Delta de l'Okavango. Et je pars en safari l'après-midi, donc après le déjeuner. On fait une pause en général, parce que de midi à 3h30, 4h, les animaux sont comme nous. Ils ont trop chaud, ils tirent la langue, ils sont couchés sous un arbre, tu vois rien. Donc ça, tu commences à avoir de l'action de nouveau sur les coups de 4h. Donc je pars en safari l'après-midi. Et au bout de pas mal de temps quand même, je tombe sur une femme blonde avec ses deux fils, deux gamins qu'elle tient dans les mains. Les gamins devaient avoir à peu près une dizaine d'années. Ils marchent en plein milieu de la brousse, quoi. Et donc, moi, je m'arrête à un niveau. Je leur dis bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit on se balade. J'ai dit, excusez-moi, comment ça vous baladez? Elle me dit on se balade, on est parti du campement. Je dis mais vous campez où là? Parce que soit vous campez avec des professionnels et vous êtes échappés et ils sont pas au courant, soit vous campez forcément au camping public et c'est à 4 km d'ici quand même. Non, on est parti à pied, on a laissé le véhicule au campement public. J'ai dit, vous venez de marcher 4 km avec vos deux fils en pleine brousse, habillés comme ça? Il me dit, bah ouais, mais enfin bon, il n'y a rien. J'ai dit, mais arrêtez de dire qu'il n'y a rien. Le virage juste avant, je viens de laisser une meute de lions. Vous les avez vus? Parce que vous êtes passé sur la piste à pied. Il me dit, bah non, vous faites ça pour nous faire peur. J'ai dit, ah non. Donc du coup, je lui montre mon appareil photo que j'ai bien les lions juste là. Et je lui dis, déjà, de 1, c'est strictement interdit de marcher à pied dans les parcs nationaux. De 2, moi, je vous ai rencontré. Et si tu veux, au Botswana, la police. Où les experts en recherche sont tous des bushmen et donc des trackers exceptionnels. Donc moi, on va savoir que je suis venu vous voir, que je vous ai rencontré. Parce qu'il y aura mes marques de tel pneu, et tel pneu utilisé par telle voiture, qui est utilisé par telle société.
Ils savent.
Auquel nous, on ne pense pas en France, mais c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. C'est comme ça que tu sais que tel collègue est passé devant toi ou pas. Parce que tu reconnais la marque des pneus qu'il utilise. Tu vois,
c'est énorme.
Tu vois, ou la façon dont les virages vont être pris dans le sable. Tu sais que celui qui conduit un peu plus fort que les autres, tu vois, ce genre de choses. Et donc, moi, je dis, on va savoir que je suis venu vous voir. Et si vous arrive quelque chose, c'est vers moi qu'on va revenir après. Donc, moi, je dis, je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser en pleine brousse. Déjà, encore une fois, c'est interdit. Si vous refusez de monter dans mon véhicule, moi, je vais devoir faire demi-tour et je vais devoir les prévenir les Rangers. Et je vais devoir vous signaler, ils vont venir vous chercher. Vous n'aurez pas le choix de monter dans le véhicule et vous allez être viré du parc national, voire même viré du pays, parce que vous ne respectez pas la loi. Après quelques négociations, elle a compris, c'était une dame allemande. Elle est montée dans mon véhicule avec ses deux gamins. Et je les ai emmenés voir les lions qui étaient à. Je dirais, allez, peut-être 400-500 mètres de là où ils étaient. Et après, pour leur montrer qu'il y avait bien les lions, et après, je les ai ramenés à leur campement. Mais tu vois, les gens ne se rendent pas compte. Ou le réflexe, tu sais, quand on fait les pauses café ou déjeuner ou autre, les gens sont intéressés, du coup, ils vont aller toucher une branche ou une feuille ou quelque chose. Mais des fois, c'est pas une branche.
C'est-à-dire
ça peut être un insecte, voire un serpent ou autre. ça arrive. Tu vois, moi, un jour, c'était à l'époque de la formation... On voulait faire une autre approche d'animaux dangereux à pied. Et donc, on avait trouvé des buffles. Et on avait trouvé leurs empreintes et leurs déjections. Et donc, le formateur a dit, on va suivre les buffles pour essayer, du coup, les approcher à pied et faire cette approche d'animaux dangereux. J'ai dit, OK. Et on les suit. Et en fait, on met du temps comme pas possible. Et on se rend compte qu'en fait, ils nous distancent, les buffles. Et évidemment, le formateur, il dit, bon, les gars, il va falloir qu'on accélère parce qu'on perd du temps. Et moi, je dis, écoutez, je propose un truc. Je la mets en 100% tracker. C'est-à-dire que moi, je vais 100% lire le sol et je vous emmène à un certain rythme. Par contre, 100% des autres élèves, vous surveillez, vous êtes les miradors, parce que moi, je ne vais pas regarder ce qui m'entoure. OK, pas de problème. On marche à travers la brousse. Et on a fini par trouver les buffles. Mais avant ça, on arrive dans un endroit assez boisé. Et donc, je passe entre les arbres et par réflexe, tu sais, je mets la main contre un tronc et je pars en arc de cercle, comme que tu peux tourner autour d'un poteau, tu vois ce que je veux dire. Et faisant cet arc de cercle, je m'arrête d'un coup devant deux énormes troncs qui partent du sol. Mais qui se rejoignent au niveau de ma tête. Et en fait, je me suis retrouvé devant un énorme paire de fesses d'éléphant.
Mais non.
Qui était à un mètre de moi. Parce que j'ai pivoté autour de l'arbre. Et pour le coup, c'était un vrai arbre que je tenais dans la main. Et puis moi, je lisais que le sol, je ne levais pas la tête. Et donc, je suis arrivé. Et donc, si tu veux, les pieds d'un éléphant, c'est tellement large qu'on dirait deux troncs. Et effectivement, je relève la tête. Et là,
un film, quoi.
Paire de fesses énorme devant moi. Et par pur bonheur, en fait, cet éléphant était en sieste. Une sieste debout. Très souvent, ils se mettent la tête contre un arbre ou ils rentrent la trompe dans les branches pour se tenir un peu en équilibre pendant 15-20 minutes et ils dorment. Et donc, du coup, je l'ai réveillé et par pur réflexe, il est parti tout droit parce qu'il a eu peur, tu vois. Mais t'imagines, s'il serait retourné d'un coup, retourné en balançant la trompe et il m'envoie, enfin, tu fais des dizaines de mètres dans les airs. Hein.
Ouais,
il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en haut des arbres d'un coup de trompe d'éléphant.
Balancé par
donc,
les éléphants.
Déjà, t'es un sac d'os, si tu veux, broyé au fond de ta peau et t'es accroché en haut d'un arbre, quoi. Donc moi, j'ai un peu engueulé les autres. J'aurais dit, je vous ai demandé qu'une seule chose, c'est de faire attention. Et bon, ça aurait été un léopard tapis dans les feux et mort dans un buisson. Je comprends que tu ne l'aies pas vu.
Un éléphant,
mal adulte. Bon, donc
tu
j'avais
vois,
un peu
quoi.
Gueulé. Mais voilà, ça fait partie du genre de choses qui peuvent arriver. Ou tout à l'heure, je te parlais du lion qui a voulu attaquer mon véhicule. Ça a été très chaud. Je sais que les clients ont été traumatisés de ce moment-là. C'était assez rigolo. L'après-situation de comment les gens l'avaient vécu. Ça, c'était il y a 2 ans. On commence notre safari, on en est au 3e jour, et si tu veux, j'avais déjà eu la chance de voir léopard, guépard, licaron, etc., qui sont des animaux normalement compliqués à trouver, et pas de lion, ce qui est normalement le prédateur le plus facile, entre guillemets, à trouver.
Attends, je fais une parenthèse. Les lions, ils sont toujours au même endroit, toi, tu sais où ils sont? Ou vraiment, ils vont n'importe où dans la brousse?
Alors, tous les prédateurs sont territoriaux. 100% D'accord. des prédateurs sont territoriaux. Enfin, 100% non, on a quelques-uns qui ne le sont pas, mais la majorité des prédateurs sont territoriaux. Du coup, on connaît leur territoire. Maintenant, D'accord. rien ne dit que tu vas les trouver, parce que le territoire, t'en as qui ont des petits territoires, t'en as qui ont des territoires gigantesques. Et encore une fois, tu ne sais pas où ils ont essayé de se mettre aujourd'hui.
D'accord.
Et puis, des fois, ils peuvent être très proches de la piste, parce que tu as le droit de faire du hors-piste, mais ils peuvent être tellement cachés que tu ne les vois pas. Tu vois, par exemple, là, je vais rentrer, dans 3 semaines, je vais rentrer chez moi au Botswana. On est là pré-saison des pluies, en ce moment, c'est les moussons. Je vais arriver, il y aura 1 mètre, 1,50 mètre d'herbe partout. Donc, un lion couché à 2 mètres de la piste, tu ne le vois pas. Encore une fois, quand je te parle du danger, tu vois, où les gens disent,
ouais, bien sûr.
Non,
il y a toujours.
Tu le vois pas.
Donc, quand tu te balades, tu sais qu'ici, il y a une famille de lions, ou je ne sais pas comment s'appelle, un groupe de lions, que c'est leur coin, quoi, que c'est leur région.
Oui, absolument.
Mais après,
je peux te dire dans quel territoire de lion je suis. Ouais.
D'accord.
Ouais.
Donc, excuse-moi, je t'ai coupé sur ton histoire de lion.
Il n'y a aucun souci. Donc, on arrive au 3e jour sans avoir vu de lion. Et évidemment, les clients tapent dans l'épaule, Alex, des lions.
Et on a payé 5 000, Alex. Hein. Ouais. On aimerait bien voir des lions.
Ne bougez pas, j'envoie 2-3 emails, je vais vous arranger ça. Et du coup, en fait, je prends la radio et j'appelle à la radio ce que j'évite de faire. En général, Botswana, ce n'est pas recommandé de dire directement où sont les animaux à la radio, parce que sinon, ça fait un attroupement de personnes. Et Botswana, par la loi, c'est réprimandé. On partage toujours entre guides nos spots, donc ce qu'on a vu, les animaux, etc. Parce que c'est important, on a tous envie de satisfaire notre clientèle, on a tous envie de voir ces animaux-là, du coup on partage toujours. Et donc j'appelle et je dis, voilà les gars, excusez-moi de vous déranger, si jamais il y en a un d'entre vous qui a vu un lion dans le coin, ou des lions, faites-moi signe, j'en ai besoin. Ok, pas de problème. Et un quart d'heure après, on m'appelle à la radio et on me dit, à tel endroit Alex, si tu veux, il y a un couple de lions en train de s'accoupler. Je dis, bah super. Par contre, c'est en extérieur du parc national, c'est dans la réserve de la concession publique. J'ai dit, ok, pas de problème, je prends mes clients, je dis, écoutez, j'ai des lions, vous pouvez les voir. En plus de ça, ils sont en train de s'accoupler, donc c'est des scènes sympas à voir, c'est pas un comportement qu'on voit tous les jours. Généralement, le lion, c'est un chat, hein, ça dort 18 heures par jour, donc c'est sous un arbre à dormir, il ne se passe rien. Là, on peut les voir interagir, jouer, grogner, se mettre des coups de pattes.
Il paraît que ça dure longtemps quand
etc.
ils font le mariage.
Ouais, ça dure une semaine.
Ouais.
Donc, je dis, on va sortir du parc national. Ils me disent, ok, pas de problème, parce que de toute façon, quand tu sors du parc national, tu passes à travers une grande porte qui est faite avec un toit de chaume, mais à droite et à gauche, tu n'as pas de barrière. Donc, c'est délimité géographiquement, c'est tout. Je sors du parc et je m'approche d'une rivière. Et la rivière fait comme un angle à 90 degrés. Et dans l'angle à 90 degrés, tu as le couple en train de s'accoupler. Et quand j'arrive, il y a déjà un véhicule de safari sur place. Et il est garé particulièrement loin de l'animal. Il faut savoir que des lions. C'est ce qui impressionne souvent les clients, tu peux des fois te garer très très près. Voire, ils peuvent même utiliser l'ombre que fournit ton véhicule pour se mettre au frais. Donc, tu peux en avoir qui sont couchés avec la tête sur ta roue, tu vois ce que je veux dire. Ils ne le font pas tous, il ne faut pas penser que c'est une généralité. Mais les lions peuvent venir très 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 proche du véhicule, même quand ils marchent. Je pourrais te montrer des photos, des vidéos. Donc, ça peut vraiment impressionner. Et là, je le vois vraiment garé loin. Quand je te dis loin, je te dirais au moins entre 100 à 150 mètres. Je trouve ça bizarre. Bon. Sachant que dans la concession publique où j'étais, tu as le droit de faire du hors-piste. Donc, tu peux t'approcher de l'animal. Et au moment où j'arrive, donc le guide me reconnaît, il me dit, ça va Alex, il me dit, t'approches pas, ce lion-là est très agressif, il charge les voitures. J'ai dit, ah, merci de l'information. Et j'ai dit, c'est quand même étonnant, parce que les lions, cette région-là, on les connaît. Donc, pourquoi tout d'un coup il est agressif? Pourquoi il me dit ce lion-là? Parce qu'il y a eu beaucoup de lions dans des régions à qui, nous, les guides locaux, on a donné des noms, en fonction de leur meute, etc., et de leur territoire. Et là, il me dit, ce lion-là, c'est bizarre. Du coup, je me gare à 90 degrés, donc si tu veux, la voiture est de travers, comme ça les clients ont 100% la vue sur le côté pour regarder les lions, et sachant que le lion et la lionne sont couchés au bord de l'eau, mais dans des hautes herbes. Du coup, on voit quasiment rien. On voit de temps en temps un bout de cul qui dépasse ou une oreille qui dépasse, mais rien. Tout d'un coup, la femelle se lève et décide d'aller boire à la rivière, à 2 mètres de là où il était couché. Et j'entends le lion mâle qui rugit, qui grogne, qui n'est pas content. Bizarre, qu'est-ce qui lui arrive celui-là? Il n'y a pas de raison qu'il soit aussi grognon. La femelle a fini de boire, fait demi-tour et commence à marcher vers nous et dépasse le lion mâle. Et là, je me rends compte que c'est une femelle qui est relativement jeune, qui devrait avoir 1 an et demi, qui n'est pas 100% développée, tu vois, qui est très amaigrie. Bon, et elle marche vers la voiture. Et à ce moment-là, le lion se lève et suit toujours sa femelle quand il y a un accouplement. Et là, il se lève. Donc, on commence à le voir un peu mieux. Et là, tous mes clients qui étaient des amateurs de la photographie, en plus, avaient tous des très, très gros objectifs que j'appelle moi des bazookas. Et donc, se sont tous mis en joue vers le lion. Et quand le lion était braqué par ses caméras, par ses appareils photo, pardon, je l'ai vu regarder les appareils photo et grogner encore plus fort. Et là, je regarde le lion et je dis, ouf, je ne connais pas ce lion-là. Je ne l'ai jamais vu. Et il n'est pas d'ici. Parce qu'il n'a pas les caractéristiques physiques des lions du Delta Okavango. Et il y a les caractéristiques physiques des lions du Kalahari. Et là, je lui dis, ouf, ça, c'est pas bon signe. D'autant plus, il connaît le geste, celui-ci, celui de mettre en joue. Donc, il a connu forcément ça. Et je dis, ouais, ça, c'est pas normal. Et là, il commence à trotter, il dépasse la femelle. Et je dis à tous mes clients, rangez les appareils photos, arrêtez de le mettre en joue, arrêtez les photos tout de suite. Alors, tous les clients sont confus, ça fait 3 jours qu'on voulait voir des lions. On a enfin un là, et en plus, mâle et femelle. Je leur dis, donc ils comprennent pas, je leur dis, arrêtez de faire les photos tout de suite. Il va charger la voiture, je veux pas un mouvement, je veux pas un bruit. Et ça a pas loupé. Là, le lion, il arrive en sprint complet. Il faut savoir que le sprint complet d'un lion, c'est 50 mètres en 3 secondes. Donc, c'est rapide. Et il s'est arrêté à 2 mètres de la voiture sur le flanc en faisant un énorme rugissement. Donc, tous ceux qui étaient assis côté lion se sont retrouvés sur les genoux de ceux qui étaient assis de l'autre côté.
Ta voiture, elle est ouverte ou c'est une voiture fermée?
Elle est complètement ouverte.
Complètement ouverte.
Complètement ouverte.
OK.
C'est pour ça, comme je te dis, imagine être assis à l'arrière d'un pick-up dans la benne et aux 2 mètres au-dessus de toi, tu as un toit qui est fait en toile pour protéger le soleil. Donc, ouais, donc je leur avais dit de ne pas faire de bruit, surtout pas bouger. Mais bon, évidemment, tout le monde n'est pas habitué. Bon, je ne vais pas dire que je suis habitué non plus. Mais.
Non, mais c'est un réflexe de protection humain.
C'est un réflexe
quoi.
De protection. Quand tu te retrouves nez à nez avec un animal, très souvent, vu que c'est quelque chose auquel tu n'es pas habitué, tu te bloques, tu gèles sur place. Et c'est très souvent ce qui sauve la vie des personnes. Parce que quand tu as un peu de distance, ton cerveau te dit « j'ai encore assez d'espace pour pouvoir m'enfuir et me mettre à l'abri, en sécurité ». Et c'est à ce moment-là où tu fuis, c'est là qu'il y a l'accident. Donc là, à ce moment-là, si tu veux, quand le lion est arrivé et il a rugi, effectivement… Les gens pensant être dans le véhicule, évidemment en sécurité, ce qu'ils étaient, mais voilà, ils ont tous eu peur, ils ont tous décalé. Et moi, je lui ai dit, stop, ne bougez pas. Parce que là, le lion.
Et toi, t'es comme ça sur ton volant.
Il a les deux
quoi.
Pattes écartées comme ça, il regarde avec les yeux grands ouverts, bien ronds, la bouche entrouverte, il grogne, il bave en même temps, et puis il regarde chaque individu dans le véhicule. Parce qu'on dit très souvent en safari, vous inquiétez pas, les animaux voient le véhicule comme un seul et gros même animal. Non, ça, c'est des conneries. Les prédateurs, ils te regardent dans les yeux, ils te discernent. Ils savent très bien, ils savent te compter nombre de personnes dans le véhicule. Et évidemment, il y a un seul gus dans la voiture qui n'a pas bougé. C'est moi. Et le lion arrête de regarder les clients et il me regarde moi. Et du coup, il dit, tiens, je vais aller rencontrer le petit français là au guidon. Et du coup, il marche. Et il faut savoir que moi, du coup, mes portières sont coupées. Donc là où normalement sort la vitre quand tu l'as rangée, j'ai une planche de bois comme un coudoir. Et j'ai juste un pare-brise devant, mais le pare-brise, je le pousse et il tombe à plat sur le capot. Donc je suis complètement dégagé devant. Et là, il marche.
Tu bouges pas.
Je démarre pas ma voiture. La raison pour laquelle je ne démarre pas, c'est comme j'expliquais tout à l'heure avec les éléphants. Si le lion, tu ne bouges pas. Si tu bouges et tu fuis, tu ne sais pas ce qui peut se passer après, ça peut être pire. Et moi, je n'ai pas envie du lion qui court après la voiture et qui saute à l'arrière avec
D'accord,
tous les clients.
Okay.
Donc moi, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Il aurait commencé à mettre les pattes sur le véhicule ou quelque chose. Là, oui. Là, j'aurais fait du bruit, j'aurais démarré le véhicule, j'aurais mis un coup de première d'un coup. Mais sur l'instant, encore une fois, il faut. C'est si cet animal-là est voué à s'installer dans ce coin-là et donc du coup. À fréquenter, entre guillemets, des humains, il ne faut pas qu'il ait en première idée d'humains, que les humains, dans ce point-là, ont peur et fuient.
D'accord.
Tu vois ? Surtout quand avant, ils ont connu, agressif, à le chasser.
Donc, tu ne bouges pas.
Et encore une fois, c'était qu'une analyse personnelle, parce que sur l'instant, je ne connaissais pas son histoire. Je l'ai su après, donc par pur bonheur, j'avais fait une bonne analyse. Mais sur l'instant, c'était juste, comme m'avait appris mon formateur à l'époque, il faut relever tous les indices que tu as autour de toi pour comprendre ce qui se passe. Donc oui, là il est chargé, par réflexe comme tu dis, tout le monde s'est décalé, et du coup il s'est dit tiens lui à l'avant, il a l'air de pas avoir peur, c'est bizarre, il est venu me voir, et il s'est rapproché de ma portière, tellement proche que son menton était limite au-dessus de ma planche de bois qui me sert d'accoudoir, c'est-à-dire de son nez à mon nez, on devait avoir 60 à 70 cm, tu vois. On était relativement proches. Ouais, si je voulais, je me penchais, je faisais un bisou sur la truffe, je l'ai pas fait. Mais ouais, c'est très impressionnant quand t'as une bête, parce qu'on ne se rend pas compte, mais un lion adulte, ça fait entre 230 et 250 kilos. Ça paraît pas si énorme quand t'es en véhicule. Par contre, quand t'es à pied et qu'il se dresse même sur ses pattes arrière, tu te rends compte de la taille du bestiau. Mmh. Et quand il te regarde droit dans les yeux avec ses yeux dorés et qu'il grogne, tu te rends compte que vraiment t'es impuissant. Et qu'il a
mais
tellement
là, il saute, il bouffe.
Il saute, il me bouffe, ouais.
S'il a envie, en fait, il saute, il te bouffe.
Il peut faire ça s'il a envie. Mais encore une fois, tu vois, s'il ne l'a pas fait directement, parce qu'il pourrait dire, bon, je suis lion, je suis roi de la jungle, t'inquiète pas qu'ils sont au courant, il pourrait me tuer très facilement. Pas forcément me manger, mais me tuer. Il faut savoir qu'il y a très très peu de prédateurs qui chassent d'autres prédateurs pour les manger. Généralement, c'est des combats de territoire ou de compétition. Mais donc là, il voulait voir, il voulait faire le challenge. Voilà pourquoi il est venu à ma portière et qu'il me braquait droit dans les yeux. Donc je le regardais au début droit dans les yeux, il grognait, il avait la bouche légèrement ouverte. Donc un lion a la bouche légèrement ouverte, il réfléchit. Et quand t'as la queue qui bouge encore plus et qui réfléchit, et qu'il va se passer des bonnes choses. Donc je le regardais, et puis à un moment, je me suis dit, il est au courant, que je suis au courant de sa présence. Du coup, je vais arrêter le défi dans les yeux, et je vais juste me mettre à regarder mon capot. Donc je décale mon regard, il ne faut pas que je tourne la tête complètement, parce que c'est le moment opportuniste du lion. C'est-à-dire que dès que tu ne regardes pas, pof, il fonce. Mmh. Donc je montre qu'on est au courant, qu'on est tous les deux là, et hop, je dévie juste mon regard pour regarder mon capot. Et puis, il continuait de grogner de plus en plus fort. Il voulait avoir mon attention. Et puis, au moment où il en a eu marre, il m'a fait un gros rugissement en essayant de vraiment vouloir me niaquer l'épaule, en fait. Donc, il m'a fait un gros en direction de mon épaule. Donc, moi, je me suis penché d'un coup sur mon levier de vitesse. Et pour, en fait, imiter 100% le langage ou l'attitude des autres lions. Quand tu as des lions au sein d'une meute qui se bagarre, tu en as un qui veut mettre deux coups de patte. L'autre se penche, évite les coups de patte, mais se remet tout de suite en position. Il ne fuit pas pour pas justement s'en prendre encore plus. Donc je me suis couché d'un coup, j'ai évité son grognement et je me suis redressé d'un coup. Et comme le surdressé, il s'attendait pas à ce que je revienne comme une quille, si tu veux, qui n'est pas tombée. Et donc hop, il est descendu de ma voiture avec des yeux tout ronds, complètement étonnés. Et puis il a fait demi-tour, il est parti très gentiment en marchant. Et alors là, je regarde partir et il y avait un silence dans la voiture. Et donc je me retourne et là je vois tous mes clients tous penchés du côté opposé du lion, pas un mot, des yeux tout ronds, terrorisés. Et donc, du coup, après ça, on a démarré. Et on m'a posé la question, pourquoi t'as pas démarré ? Je dis, parce que si je démarrais, il y avait des chances qu'ils viennent dans le véhicule. Et donc, on est tout de suite parti. Après, on a fait une pause tout de suite, thé, café, pour que les gens puissent se remettre de cette émotion. Et ça a été quelque chose de génial. Parce que pour beaucoup, c'était leur premier safari. Et la première fois qu'ils voyaient un lion. Alors, t'imagines comment ils peuvent...
C'est dingue.
Imaginer le lion de base. Et ce qui est amusant, c'est que 3 jours après, on n'a pas vu d'autres lions entre-temps. Tu vois, c'est bizarre, il y a des safaris où je vois des lions tous les jours, matin, midi, soir, appelés en pouvoir, et des fois, tu vas voir un lion pendant tout le séjour, tu sais jamais. 2 jours après, on arrive dans un endroit un peu plus aride, et on tombe sur une fameuse meute que je connais très bien, d'ailleurs notamment qui est dirigée par un lion qu'on voit dans le reportage qui s'appelle Cécotti, et je vois quelques mâles et quelques femelles qui sont en train de se balader proche de la piste. Facile, donc je commence à ralentir, je dis « Ah bah regardez, des lions, on pourra faire les photos ». Les clients tout de suite... Non, Alex, c'est bon.
Va voir les
gymnases. Vas-y, on y va. Je dis, attendez, eux, je les connais, c'est leur territoire, c'est des nounours. Donc oui, si tu descends de la voiture et tu cours, il va t'arriver un souci, mais eux,
et
ils en ont rien à faire de nous, on est inexistants. Ils ne te regardent même pas, ils font leur vie, ils viennent se coucher dans de la voiture. Tu vois, c'est vraiment, ils sont, encore une fois, pas agressifs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dangereux, mais ils ne sont pas du tout agressifs. Et j'en vais en profiter et tout. Et à ce moment-là, il y a un petit groupe de 4-5 buffles qui sort des buissons qui sont sur ma gauche. Donc, je suis sur la piste. J'ai à peu près 200 mètres de part et d'autre de plaine d'herbe. Et après, ça devient des buissons. Et des buissons sortent vers moi. 4-5-6 buffles mâles adultes. Donc, ce qu'on appelle un vieux groupe, donc des Daga Boys. Donc, c'est des buffles qui sont mis à l'écart de leur troupeau. Parce qu'ils vieillissent ou qu'ils sont malades ou autres. Donc, c'est pour pas attirer les prédateurs au sein du troupeau. Et ils me foncent dessus, et derrière, en fait, il y a le reste de la meute. Il y a toutes les lionnes qui suivent. Et ça court, et les lionnes sautent sur les buffs, et en roulé-boulet, en font tomber un devant mon capot. Mais devant mon capot, là. C'est-à-dire que je suis obligé de mettre un coup de marche arrière, parce qu'ils sont tellement proches que je ne vois même pas ce qui se passe. Et donc, je mets un coup de marche arrière, et donc, toutes les lionnes arrivent, et t'as celles qui plantent les griffes dans le bidon pour le tirer, pour que les pattes soient en l'air, comme ça, les buffs ne passent pas se débattre pendant que l'autre... lui attrape le museau pour l'étouffer en lui mettant son museau dans sa gueule, en asphyxiant, etc. Donc, on a une scène géniale. Je regarde ça, je dis, bon, on y va du coup. Et je me retourne et j'avais tous mes clients qui étaient en train de mitrailler comme pas possible avec l'appareil photo. Et je dis, bon, bah, c'est super parce que pour le coup, voilà, on est aux premières loges. On ne peut pas être mieux placé. Donc, on observe. Et la température commence à monter. Et là où on est, on est en plein milieu d'une plaine. Donc, je regarde le soleil. Je regarde sur le côté gauche. Je dis, ouais, on fournit de l'ombre là. Je dis, bon, il faut que je prévienne les clients, même si je leur ai dit au speech de sécurité. Je me retourne et je leur dis, voilà, ils sont en train de manger, les lions vont se gaver, ils vont avoir chaud et soif. Le premier réflexe, ça va être de chercher de l'ombre. Et on fournit de l'ombre juste à côté de la carcasse. Du coup, il y a de très grandes chances que les lions viennent s'allonger le long du véhicule. Et les clients, bah, pareil, bon, allez, ça a été connerie, c'est bon. Je dis, vous allez voir. Et là, ça n'a pas loupé. Le fameux Cécotti et une de ses femelles se lèvent, part de mon capot, passe sur le côté gauche de ma voiture, longe. Et moi, si tu veux, ils sont plus bas que le niveau de ma portière. Une fois qu'ils ont passé ma portière, du coup, je la regarde dans mon rétroviseur gauche. Mmh. Parce que là-bas, je conduis avec le volant à droite. Et je les vois se mettre le long de mes clients, le long du véhicule collé, et les deux s'allongent. Si tu veux, en termes vol d'oiseau, à côté des deux premiers clients qui sont, ouais, encore une fois, tu as entre 50 cm et 1 mètre, tu vois. Mais bon, t'as la structure de la voiture qui te protège, mais quand même, tu vois. Et donc, je les regarde dans mon rétroviseur s'allonger, et puis je rigole, je me dis, vraiment, je les connais par cœur, ces gros matous. Puis je me remets à regarder la scène. Et je me rends compte qu'il y a un silence. J'entends plus un seul clic-clac. Du coup, je me retourne et je me rends compte que tout le monde est penché du côté opposé. Et en fait, j'ai tout terrorisé dans la voiture d'avoir les lions couchés juste là. Quoi. Donc, pour le coup, ce pauvre groupe...
Ouais, et là, tu peux partir quand c'est comme ça ? Ça, c'est pas grave ?
Non, c'est pas grave. Non, le lion, il va se plaindre parce que tu lui retires son ombre, mais il va pas te grogner dessus, il va rien te faire.
Ouais.
Tu vois juste à sa gueule qui tire le sourire en bas et qui dit « Ouais, non, j'étais bien long. »
Tu crois que tu vas vivre toute ta vie au Botswana ?
Toute ma vie, je ne sais pas, parce que je suis mordu d'aventures et de découvertes. Par contre, le mode de vie que j'ai là-bas, la liberté de vie que j'ai là-bas, je sais que j'aurai beaucoup de mal à trouver ailleurs dans le monde. J'aime beaucoup que quand je me réveille le matin, que je suis chez moi, que j'ouvre ma terrasse, que je peux avoir des éléphants, des hippos, des crocos devant chez moi, que je prends ma voiture, je fais 3 km, je peux avoir des lions et tout ça autour de moi, je peux partir en pleine expédition pendant 3 mois si je veux, personne n'entendra parler de moi. Si je veux aller tout droit par là-bas, je peux aller tout droit par là-bas. Enfin, tu vois comment dire ça, mais c'est très mauvais comme explication, mais...
Si, c'est très clair.
J'ai jamais le moment où, tu vois, où je prends le volant, je me dis, tiens, il faut que je fasse absolument attention à la limitation de vitesse ou à la police, les barrages, etc. Bien qu'évidemment, je vais respecter le code de la route,
mais
j'ai pas cette pression permanente. Je suis vraiment libre de faire ce que je veux. Et en plus de ça, dans mon quotidien, j'ai pas le choix de savoir faire un tas de choses. Tu vois, je cuisine pour moi, je fais ma vaisselle, je couds mes propres, enfin, je répare mes vêtements si je dois. Je suis très bricoleur, je fais de la mécanique, je peux construire, je sais pas, n'importe quoi. Et t'as pas le choix en fait de savoir faire ces choses-là parce que t'as très peu de personnes qui pourront savoir faire ces choses-là sur place, quoi. Et ça, ce côté 100% autonome qui me plaît vraiment beaucoup au Botswana. Et puis surtout, si je prends ma voiture, je fais 10 minutes et il n'y a pas un humain et je suis en pleine nature, quoi. Et si je refais 10 minutes dans l'autre sens, je suis au supermarché, tu vois. Fin...
Au supermarché, au feu rouge.
C'est la raison pour laquelle j'habite là-bas, tu vois. Donc ouais, je pense que je vais continuer d'explorer ce monde-là que j'adore. Je trouve ça absolument exceptionnel. Mais je suis très branché nature. Moi, ça ne m'est pas vraiment de voir la puissance de la nature. Bien plus de voir ce que la puissance, je dirais, humaine a été capable de créer. Et on verra. Je pense que je vais vivre une bonne partie de ma vie là-bas. Mais définitivement en permanent, je ne sais pas. En tout cas, les 10 prochaines années qui viennent, ça, c'est sûr. Un jour, j'aimerais bien vivre à la montagne. Mais encore une fois, tu vois, qu'est-ce que c'est que vivre à cet endroit-là ? J'ai ma maison à Mône. J'y suis un mois et demi,
ouais.
Éclaté sur l'année. C'est-à-dire 2 jours, 3 jours, peut-être 4 par mois. Tu vois, enfin, c'est vraiment... Je ne suis jamais chez moi. Donc, je suis toujours en fait en plein mouvement. C'est pour ça, quand on me dit ce que tu verras tout à l'heure au Botswana, je n'ai pas ce qu'on te dire, mais j'ai quasiment jamais vécu chez moi. Parce que je suis toujours sur la route en permanence. Quoi. Tout le temps.
Merci. Ouais. Merci beaucoup. Trop bien, merci beaucoup.
C'est la fin. Merci 1000 fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. À très vite. Merci et à bientôt.